Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Hongrie au Hungaroring qui aura vu la deuxième victoire de Lewis Hamilton mais surtout briller les Lotus. Pour m'accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino qui cette fois-ci ne chantera pas hein, parce qu'il n'a pas d'occasion de chanter.
Hein. God save the... Bonsoir Sidi.
Et Dino.
Et monsieur Bassal.
Ah non, alors commence pas.
Pas seul. Ah,
parce que déjà, hein, je dois m'acoquiner l'autre hein, toutes les semaines, mais toi, commence pas.
Surtout que t'aimes pas le Dr Pepper, et ça, franchement, je te dis, ça commence déjà un petit peu à l'énerver.
Hein.
Et donc, nous avons avec nous ce soir Shinji, et chers auditeurs, nous avons Adelin, auditeur régulier du SAV, et qui participe régulièrement aussi au concours top position.
Et commentateur régulier sur le site, FanFA.
Ouais. Ah oui, c'est moi.
Avec un beau beluga en photo.
Oui. J'aime bien ces animaux, c'est joli.
Alors messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de cette course? Enfin surtout Adelin, parce que Dino, on sait très bien tout ce que tu penses du Hungaroring.
Oui.
Ben.
Non mais après les courses qui sont dessus, c'est pas pareil.
Même s'il faut avouer que, alors, j'ai envie de dire, c'est assez exceptionnel, puisque ces dernières années, on avait eu de belles courses. Ça n'a pas été une course exceptionnelle.
Non mais il faut distinguer la course du circuit.
Voilà, c'est pour ça que je précise. Ça ne t'énerve pas.
Le circuit reste exceptionnel.
Moi aussi, c'est comme l'ensemble de la saison. J'aime encore bien ces courses, comme sympa avec des rebondissements et voilà.
C'est pareil. Je trouve que c'est pas forcément effectivement la course la plus spectaculaire qui soit, mais en même temps le circuit ne s'y prête pas et c'était une très belle course.
Non, ça c'est un peu comme Monaco. Hein.
Oh. Avec de l'animation et tout, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Même si Lewis a gagné, mais bon.
Oui, ça arrive parfois, hein.
Même si Kimi Räikkönen a fini deuxième, hein, bon.
Non, arrête.
Ouais, on s'y attendait pas, hein, ça.
Oui, d'ailleurs, je dis, ça va?
Moi, je suis très content. La course n'était pas extraordinaire, mais je suis très content.
C'est les résultats qui comptent, hein, de toute façon, à la fin.
Ah, mais oui.
Shinji était à pas grand chose, de se pendre ce soir. D'ailleurs, il s'est peut-être pendu encore. Là, c'est les derniers souffles. Oui. Vous en saurez plus tard.
Non, c'est vrai que cette semaine, il est beau. Il est très très beau. Mais nous verrons ça bien prochainement, dans quelques minutes. Bien dans ce cas, messieurs, rappelez-vous, ce Grand Prix de Hongrie, c'était dimanche. Hein,
oh.
Date des premières médailles olympiques, mais aussi date de plein de choses. Et ça, nous allons le découvrir maintenant.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors messieurs, je vous rappelle hein, le concept du chiffre inutile, de l'éphéméride inutile. Un chiffre qui a rapport avec quelque chose qui s'est passé le même jour que le Grand Prix. Ce dimanche, nous étions le 29 juillet. Et le chiffre de la semaine, eh bien j'ai... Ça fait plusieurs semaines que je fais des petits chiffres. Hein. Alors, je me suis lâché cette semaine, puisque le chiffre de la semaine, c'est 50 millions.
50 millions.
Oui, enfin, c'est 50 millions environ. J'ai envie de dire, on n'est pas à un ou deux près.
D'accord.
Ah.
Est-ce que ça a un rapport avec les JO?
Eh bien, tu t'en doutes? Non.
Donc, pas de rapport avec la F1, pas de rapport avec les JO, pas de rapport avec la,
avec
la
un
Hongrie.
Sport.
Pas avec la Hongrie, pas quoi que... Non, on peut pas dire que ça veut quelque chose avec la Hongrie, pas avec un sport.
C'est international, donc.
D'une certaine façon, oui, on peut dire qu'il y a un rapport avec l'international. Mais tu connais mes rapports.
Hein. Ouais, je te dis, écoute, ça ne regarde que toi.
Tu sais bien, quand je dis que quelque chose a un lien avec quelque chose, c'est parfois très tordu.
Oui, c'est vrai.
Ouais, il faut aller chercher loin. Hein.
Genre la première course avec la F1. Non.
Arrête, là, il y avait un lien.
Est-ce qu'il y a une unité de mesure derrière?
Oui.
Des mètres?
Non.
50 millions de mètres.
Wow, ça serait beaucoup.
Bah.
Une unité de poids?
Oui.
Des tonnes?
Non.
Des kilos?
Des kilos.
50 millions de kilos.
Donc j'aurais pu dire 50 000 tonnes. C'est parce que je voulais vraiment un gros chiffre cette semaine.
Avoir un gros chiffre.
50 000 tonnes, c'est énorme.
C'est très gros. Moi-même, j'ai été étonné.
50
c'est le poids d'un... Tonnes. D'un moyen de transport?
Non.
C'est le poids d'un objet créé par l'homme?
Oui.
D'un building?
Non.
Bon.
D'un édifice, de manière générale?
peux-tu me donner ta définition d'édifice?
Bah, quelque chose qui aurait été bâti par l'homme pour abriter, protéger ou vivre.
Je vais dire non quand même.
Parce que je pense à Stonehenge.
Ou bien ça peut, être... ça peut être plus que décoratif, comme une statue ou quelque chose du genre.
On est plus de cet ordre d'idée, même si ça n'est pas exactement ça.
C'est quelque chose de en hommage, qui a été fait en hommage de quelqu'un.
Pas spécialement de quelqu'un, mais il y a la notion d'hommage dedans.
C'est un monument.
C'est un monument.
La Tour Eiffel.
Non, pareil qu'elle est plus légère.
Ah ouais.
Je
la statue de la liberté.
Non.
L'atomium.
Non.
On reconnaît bien le belge. il faut vous le dire, il est belge, donc forcément totalement décrédibilisé dans cette émission.
Oh, il doit être plus léger quand même, l'atomium.
C'est un monument très connu.
Oui.
Et qui aurait été bâti ou inauguré le 20...
Exactement. 29 juillet, oui.
L'Empire State Building.
Non.
Les Twin Towers.
Non.
Qui ne font plus 50 000 tonnes.
Non, malheureusement, non.
L'Arc de Triomphe. La Grande Muraille.
Exactement.
La Grande Muraille de
Chine. Non, pas la Grande Muraille de Chine. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe de l'Étoile, hein, de Paris. Bien évidemment, parce qu'il existe d'autres Arcs de Triomphe, mais... Ouais. C'est... Alors, étonnamment, moi aussi j'ai été surpris, je pensais que c'était entre guillemets plus léger que ça, et il pèserait, c'est une estimation bien évidemment, 50 000 tonnes, il est haut de 50 mètres, large de 45 mètres, profond de 22 mètres, donc il y a une profondeur de 25 mètres sous l'arc, et donc il a été inauguré le 29 juillet 1836, puisque c'est une création de Napoléon, et là vous vous dites, tu fumes Shinji? Mais non, parce que il a une histoire un peu compliquée, l'Arc de Triomphe. En fait, l'histoire, elle remonte au lendemain de la bataille d'Austerlitz, hein, qui n'est pas qu'une gare, hein, c'est aussi une bataille. C'est pour ça que quand t'as dit la Hongrie, parce que ça rend hommage aux batailles, donc il y a un peu la Hongrie d'une certaine façon. Oui. Donc au lendemain de la bataille d'Austerlitz, j'ai pas dit que c'était un lien super serré, hein. Je l'ai dit.
Oui, non, mais c'est vrai qu'en même temps, Napoléon, c'est un petit peu battu dans toute l'Europe, donc
par conséquent. Tout à fait, voilà. Et donc, après la bataille d'Austerlitz, il déclare aux soldats français, vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas attendu 30 ans. Et donc, par un décret impérial de février 1806, ordonne la construction de cet arc de triomphe, consacré à perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Et son projet initial, c'était d'en faire le point de départ d'une avenue qui traverserait le Louvre jusqu'à la Bastille. Donc en gros, il aurait pété le Louvre. Et donc, la première pierre fut posée le 15 août 1806. Rien que les fondations, elles exigèrent 2 années de chantier. En 1810, les 4 piles hein, qui forment la base s'élevaient à 1 mètre. Donc il restait encore 49 mètres, hein, si vous calculez bien. Hein.
À l'occasion... Attends. On vérifie, Adela. 50 moins 1, je retiens 7, j'additionne 9. Ouais, 49, c'est bien.
49. D'ailleurs, à l'occasion du mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, comme il n'était pas encore construit, ils ont fait en fait une réplique taille réelle en charpente, parce qu'il n'était pas encore fini.
Ouais.
Le premier architecte... Oui.
Mais Shinji, j'ai une question qui me turlupine. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?
Eh bien écoute, elles devaient être sèches et archi-sèches le jour de son mariage. C'est une supposition.
Oui, théoriquement, oui.
Et donc, faut savoir que lors des premières défaites napoléoniennes et aux événements de 1814, eh ben, il n'était pas encore terminé. Il était élevé jusqu'aux voûtes. Donc, il restait encore bien 10-15 mètres. Donc, la construction, bien évidemment, elle est interrompue sous la Restauration. Elle ne reprend qu'en 1824. Et en fait, c'est en 1830, Louis-Philippe, qui reprend, en fait, la pensée initiale de Napoléon. Mais en plus des victoires napoléoniennes, il va y rajouter, en fait, globalement, les victoires entre 1792 et 1815. C'est-à-dire, il rajoute, en fait, la révolution à l'Empire. Oui. C'est aussi sous Louis-Philippe qu'on décide, de faire ces fameuses 4 grandes sculptures, hein, qui sont de chaque côté, de l'arc, pour être précis. Et alors, donc, il est inauguré le 29 juillet 1836 pour le 6e anniversaire des Trois Glorieuses, hein, qui sont une date importante pour la monarchie de Juillet. Et alors, au début, il était prévu une grande revue militaire où Louis-Philippe aurait été présent, sauf que comme il avait été visé par un attentat, Adolphe Thiers, qui était le président du conseil, en fait, a convaincu le roi de pas venir. La revue militaire, ils l'ont décommandée. Ça a été remplacé par un banquet. Et finalement, ça a été inauguré en catimini à 7h du mat.
Non mais t'imagines quand même le truc formidable. Voilà, ça y est, c'est inauguré. Allez, on va bouffer les mecs.
C'est
hein.
Que
allez,
ça. Hop, on... Et donc c'est inscrit, comme on dit, au titre des monuments historiques depuis le 6 février 1896. Donc il est connu, alors pour ses hauts reliefs notamment, les quatre statues dont notamment il y a la fameuse Marseillaise, dont le titre exact est le départ des volontaires de 1792. Il y a aussi le triomphe de 1810, la résistance de 1814 et la paix de 1815. Pareil, hein, les bas-reliefs rappellent des grandes batailles de la Révolution et de l'Empire. À l'intérieur, vous pouvez voir les noms des à la fois des batailles, il y a les grands noms de l'Empire, notamment tous les maréchaux et plein d'autres. Architecturalement, c'est très joli à voir. Faut savoir en plus qu'à l'intérieur, il y a toute une muséographie sur l'histoire du bâtiment, sur son symbole. Ça, tout a été refait en 2008. C'est très intéressant à voir.
Et ça offre un super point de vue sur Paris. Et ça offre... Si vous avez l'occasion d'aller à Paris, c'est vraiment peut-être... Enfin... c'est plus rassurant que la Tour Eiffel parce que vous avez moins l'impression
c'est moins haut.
Mais il y a vraiment une impression à 180 degrés qui est juste géniale.
À noter donc.
Et c'est un petit peu long par contre. Il y a un petit délai d'attente qui est un petit peu long.
Voilà. C'est un peu, c'est monument parisien. Hein.
Oui.
Donc notez aussi l'arc. Putain, je dis tout le temps l'arche. Alors faut dire arc de triomphe. L'arc accueille à la fois donc la tombe du soldat inconnu depuis 1921. Et aussi la flamme du souvenir, hein, qui date, elle, de 1923, et qui est rallumée tous les jours à 18h30. Tous les jours, donc il y a des associations, notamment d'anciens combattants, qui rallument la flamme. Et alors, j'ai aussi une petite collection d'anecdotes, de faits divers hein, liés à l'arc. Alors, par exemple, durant le transfert des cendres de Napoléon en 1840, le cortège passa dessous, hein, sous l'arc. De même que le corps de Victor Hugo a été veillé sous l'arc la nuit du 22 mai 1885 avant d'être enterré au Panthéon.
Eh ben.
À noter que deux fois par an, alors aux alentours du 10 mai et du 1er août, bon, c'est maintenant, le soleil se couche dans l'axe des Champs-Élysées. C'est-à-dire que pour une personne située sur les champs, le disque solaire est ainsi visible quelques minutes sous l'arche. Et d'ailleurs, le 10 mai 94, le phénomène s'est accompagné d'une éclipse partielle de soleil qui a été observée par 200 000 personnes. Et à noter qu'en sens opposé, c'est-à-dire vu de la porte Maillot, là, cette fois-ci, c'est le soleil qui se lève deux fois par an aux alentours du 7 février et du 4 novembre. Donc là, le coup du soleil qui passe au milieu de l'arche, c'est peut-être ce soir ou dans les tout prochains jours. En tout cas, c'est vraiment en ce moment même.
Mais à noter que là, quand on est, je crois que c'est sur les Champs-Élysées, quand on regarde sous l'arche, ce qu'on voit, c'est le quartier de la Défense.
Oui.
Et qu'il y a eu les plans ont dû être modifiés. Parce que en fait ça gâchait la perspective et donc ils ont dû modifier un peu les plans du quartier de la Défense. Alors je sais plus pour quelle raison exacte, mais parce que en fait ça faisait pas bien sous l'arche. Voilà.
De même que voyez, si on regarde des piles par rapport à l'arc de triomphe, l'arche de la Défense s'est légèrement décalée et ce décalage il est pas anodin puisque en fait théoriquement entre le Louvre et la place de l'Étoile, c'est pareil, il y a un décalage de 7 ou 8 degrés. Et en fait, c'est ce décalage de 7 à 8 degrés qui est reproduit, mais de l'autre côté avec l'Arche de la Défense. Ça, je savais qu'ils avaient fait exprès au niveau du décalage. Donc, au sommet de l'Arche, actuellement, il n'y a rien. Mais il faut savoir que pendant 4 ans, entre 1882 et 1886, il y avait une sculpture monumentale qui s'appelait le Triomphe de la Révolution, qui était en fait un char tiré par des chevaux s'apprêtant à écraser l'anarchie et le despotisme.
C'est beau, Shinji. Ouais.
Le 7 août 1919, il y a un as de l'aviation qui s'appelle Charles Godefroy, qui a réussi à passer en avion sous l'arc. Et d'ailleurs, un autre as qui s'appelle Jean Navarre, lui, s'est tué malheureusement à Villacoublay la même année au cours d'un vol d'entraînement parce qu'il voulait aussi réaliser cet exploit. En 1997, un Australien essaya de se faire cuire des œufs au plat sur la flamme du soldat inconnu. Ce qui avait fait quelques années plus tôt un chanteur de rock du nom d'Hector suite à un pari avec Jean-Yann. En octobre 1980...
Il y a des gens qui ont des idées bizarres, parfois.
C'est pas le pire. En octobre 1980, Alain Marchand réédite le passage sous l'Arc de Triomphe. Il est condamné à 5000 francs d'amende. En 91, un pilote non identifié passe de nouveau sous l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Donc, on sait pas qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que l'avion, il avait été déclaré volé dans un aéroclub à Logne. Et enfin, en 1998, un supporter mexicain éméché au cours de la Coupe du Monde, hein, qui est arrêté par la police pour avoir éteint la flamme. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait à la flamme?
En pissant dessus, non?
Il a pissé dessus.
Ah, viva Mexico!
Donc voilà, c'était la petite histoire, même la grande histoire de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, hein, c'est son nom complet, hein, tout simplement Arc de Triomphe, qui est quand même un des monuments de Paris les plus célèbres, hein, avec la Tour Eiffel, bien évidemment. Et donc sinon, en F1 ce jour-là, eh bien on peut noter deux grands prix particuliers. Le premier, ça a été le Grand Prix d'Allemagne 1951, qui a quand même vu la première victoire d'Alberto Ascari, de même que c'était sa première pole position, et la deuxième victoire pour Ferrari, au passage. Oui. Et puis en termes de Grand Prix, on peut aussi remonter aux Pays-Bas 1973, donc qui avait lieu à Zandvoort. Alors, statistiquement, c'est intéressant parce que c'était la 26e victoire pour Jackie Stewart, qui marquait là un nouveau record dans la discipline. Ouais. C'est aussi le premier podium de James Hunt, c'est pas rien. Mais aussi, malheureusement, il a été marqué par le grave accident qu'il y avait eu et qui a coûté la vie à Roger Williamson, qui est un jeune pilote. C'était son deuxième Grand Prix, il était sur March. Qui l'a payé de sa vie, malheureusement. Et il faut souligner d'ailleurs par rapport à cet accident le courage de David Purley, qui s'était arrêté et qui a essayé de sauver le jeune pilote. D'ailleurs, je crois qu'il a reçu une médaille, enfin une des plus hautes distinctions britanniques pour son geste, même si malheureusement, il a pas.
Mais c'est incroyable. Enfin, si je me trompe pas, c'est la voiture est en feu.
Oui.
Lui est derrière et il demande aux gens au commissaire d'aider. Lui, il essaye et tout jusqu'à aller dans le feu. Et il n'arrive pas et on voit sur le visage du pilote et dans son attitude et dans ses gestes, on voit le désespoir. Enfin, c'est une vidéo qui est absolument, on la trouve assez facilement sur Internet et c'est une vidéo qui est à la fois effrayante mais en même temps magnifique quand on regarde juste Purley, quand on regarde juste sa réaction, c'est juste incroyable. Quoi. C'est,
faut vraiment lui dire bravo pour son courage parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a fait. Et puis bien sûr, ce week-end, ce dimanche, Dino, tu sais quelle date particulière c'était?
Ah, je sais pas. Non, c'était l'anniversaire de Ben, déjà.
Oui.
Donc on peut dire bon anniversaire à Ben. Et puis, c'était l'anniversaire de qui d'autre? Je cherche. Ah, mais oui!
1980.
Fernando Alonso.
1980, Oviedo, dans les Asturies. 31 ans. Voilà. C'était l'anniversaire de Fernando Alonso. Et, allez, pour cet anniversaire, alors, je vais pas revenir sur les statistiques d'abord parce qu'elles sont en cours. Et elles sont sans doute encore en cours pour quelques temps. Allez. Petit quiz, qui peut être rapide. Il a commencé sa carrière en
2001.
Est-ce que vous pouvez me citer tous les coéquipiers qu'il a eu depuis 2001? Et grosso modo, le nombre de grands prix en commun, bien évidemment.
Oula.
Il y en a certains, ils sont faciles.
Je suivais pas la F1 en 2001.
Je te laisse faire les derniers et après j'essaie de prendre la relève. On fait à rebours.
Ben, je sais qu'il y avait Hamilton.
Hamilton, donc
c'est pas le meilleur.
Ah, donc 17 grands prix, une saison, hein,
pour le moment. Oui, ça fait plusieurs patapans, on va dire ça comme ça. Oui, j'invente des mots aussi parfois, oui, je sais.
Tu n'es pas seul.
je sais que...
non, mais c'est triste parce
moment,
que...
Pour le moment, il y a Massa. Vas-y.
Non, mais dis-le.
Mais pour le moment, il y a Massa, mais je ne sais même pas depuis quand il est chez Ferrari.
Non, parce que j'ai eu peur, je me suis dit, putain, quand même, je sais qu'il est sur un siège éjectable, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est son coéquipier. Oui, Felipe Massa.
Attends, Alonso, il a un coéquipier?
Oui, depuis 2010, ça fait 49 Grands Prix en duo, voilà.
Bah, on l'oublie parfois, hein, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais c'est le coéquipier le plus important qu'il ait eu en nombre de Grands Prix.
Ah oui.
Il y a eu aussi Romain Grosjean pendant une demi-saison, je crois, ça.
Voilà, 7 Grands Prix en 2009.
Avant lui, de 2008 à 2009, jusqu'au Grand Prix de Hongrie 2009. J'essaye d'aider à Adelin.
C'est gentil.
Je cherche en même temps, mais je regarde la F1 depuis champion. Pas très longtemps, donc tout ce qui est historique, je ne connais champion. Pas
il
très
aime
fort.
Les murs, mais pas les fruits.
Il aime les murs.
Il aime les murs, mais pas les fruits. Du coup, ils sont morts derrière.
Nelson. Nelson P.
Nelson quoi? J'ai pas compris.
Nelson Piquet.
Junior.
Alors, tu regardes la Formule 1 depuis quand?
Depuis le Grand Prix de Belgique l'année passée. Donc, ça va faire un an.
Ah oui, d'accord. Ah ouais. On va pas lui demander de connaître l'histoire de la F1.
Oui, là. Alors, en effet, Nelson Piquet Junior. 28 Grands Prix entre 2008 et 2009. Alors vas-y, aide-le, parce que...
Donc ensuite, Piquet, ça c'est depuis 2009.
Oui.
Donc Hamilton, c'est saison 2007. Avant ça, chez Renault, il a fait deux saisons avec Fisichella.
Oui, 37 Grands Prix, 2005-2006.
Fisichella qui avait pris la relève de Trulli en courte saison, ça devait être en 2004.
Ouais, 31 Grands Prix, Trulli,
Après
2003-2004.
sa victoire à Monaco. En 2002, il roule pas.
Ouais.
Il est chez Renault à l'époque où il y a Button et Trulli chez Renault. Et en 2001, c'est chez Minardi. Et chez Minardi, avec qui il roule?
Là, c'est dur.
Parce que Minardi, c'est les petits pilotes de l'époque. Ouais, je vois pas.
Alors,
Malzacane?
non, un Malaisien.
Ah, Young.
Alex Young, 3 Grands Prix. Il y en a un autre pendant 14 Grands Prix.
Engue, non?
Non, attends, que je me trompe pas sur sa
Non,
nationalité.
Engue, il était sur Prost.
Ah, il est aussi brésilien, lui. Je pensais qu'il était portugais, mais non, il est brésilien.
Bourti? Non, pas
Non,
Bourti.
pas Bourdieu, mais c'est du même acabit.
Bruni?
Non.
Ah, je vois pas alors.
C'est Tarso Marquez.
Tarsum, ah oui.
Sinon, on peut noter alors Jacques Villeneuve pendant 3 Grands Prix en 2004, fin d'année. Franck Montagny, un Grand Prix en 2003, mais là c'est vraiment les plus durs. Hein. Et à noter, mais alors c'est sur StatF1, je précise. Hein.
Franck Montagné, il a fait un Grand Prix en 2003.
Renault, attends, je regarde si c'est du troisième pilote.
Ah voilà,
Ah
c'est le
non, c'est
troisième
du
pilote, ça.
troisième pilote. Voilà, oui, en effet.
Je le disais aussi.
C'est troisième pilote, oui, en France pour Renault. Mais c'est lui qui a pris la voiture. Enfin, je veux dire, voilà, il n'a pas pris la voiture d'Alonso, il a pris l'autre. Voilà. De même que dans le même genre que Alan McNish, il a été troisième pilote chez Renault en même temps qu'Alonso. Mais ça va, vous en êtes bien sorti parce que quand même il a trouvé les plus récents.
Alors on est des balèzes, hein, quand
Bah
tu veux.
oui, voilà.
Donc ça fait quand même près d'une dizaine de coéquipiers en 12 ans, enfin 11, enfin 10 parce que c'est vrai qu'en effet là en 2002. Ah oui, quand même il a changé souvent de coéquipier quand on y pense.
Oui, mais
Moyenne.
c'est normal, mais
Ouais.
voilà.
Oui,
Fallait
c'est
trouver le bon. Là, ils ont trouvé le bon, ça va?
pour l'instant.
Ce sera Rosberg l'année prochaine.
Eh bien, Dino, c'est tout pour cette éphéméride.
Rosberg chez Ferrari.
Ah, bah, il
Ouais,
sera
non,
peut-être
moi
obligé.
j'y suis à fond. Ah bah oui, voilà. Non, mais... Moi, ça y est, depuis que ça y est, je vois que les week-ends se succèdent pour Mercedes et sont bien pourris. Je me dis, le board de Mercedes va peut-être pas voter en faveur de la progression des
C'est
activités.
peut-être
Mercedes va
Stuttgart qui
claquer
vont
sa
décider de
porte.
l'avenir de Ferrari.
Voilà. Et même, je me dis, je vois que les performances de Mercedes, on sent vraiment la frustration en ce moment chez Rosberg. D'ailleurs, il l'a pas caché en qualif, il était vraiment énervé. Il est, voilà, je pense que il peut faire un coup de force comme avait fait Button avec William, je crois, pour aller chez Barr.
Ah oui.
Voilà, je vois bien, j'imagine bien Rosberg partir au coup de force en disant voilà, je veux partir et aller chez Ferrari, qui voilà, au moins il aura une voiture performante qui lui permettra de gagner et puis
Bah, au moins il aura une voiture.
le défi Alonso est entre guillemets à sa mesure. Donc même si Mercedes reste, je suis pas sûr que Rosberg reste.
Ah, ça c'est déjà plus intéressant.
Mais il a un contrat jusque quand lui?
2014, 2015 peut-être. Il a prolongé l'été dernier.
Bien, Dino, maintenant que l'éphéméride est terminée, c'est le quart d'heure de l'invité.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Adelin, tu le sais, depuis le début de saison, depuis cette magnifique
Ouais.
saison 2012 quand même, depuis l'Australie, nous avons décidé de vous donner la parole et de permettre surtout à Shinji de fermer un peu sa gueule. Non, je dois être honnête, Shinji,
Oui.
je suis injuste.
Oui.
C'est pas toi qui parles le plus.
C'est gentil de le reconnaître.
Et d'ailleurs, tu vois, je me dis, je vais, si ça te dérange pas, de là, d'abord, je vais rendre justice à Shinji.
Qu'est-ce que
Je vais te laisser un peu la parole. C'est-à-dire que je vais pas faire le quart
Qu'est-ce
d'heure de gloire de Shinji. Je vais faire les 2 minutes de gloire de Shinji.
Toi, tu m'as préparé un pour pas pour un truc comme ça, toi.
Dis donc, Shinji, tu es fort.
Je te connais.
Donc, avant de nous intéresser à Adelin, à sa vision de la Formule 1 et d'apprendre à le connaître, je voudrais en cette occasion exceptionnelle, en ce magnifique Grand Prix de Hongrie, je voudrais enterrer l'âge de guerre et te consacrer un pourpas-pour pour te rendre enfin justice, te donner la parole et surtout te donner l'occasion de te rattraper derrière toutes les
Tu
méchancetés que
vas
tu as
me
pu
faire un
dire.
pour-pas-pour avec que des pistes de Grand Prix, c'est ça, espèce d'enfoiré?
Alors, Suzy, pour ton pourpas-pour, es-tu prêt?
Oui.
Donc je rappelle le principe, le pour, pas pour, tu dois dire pour ou pas pour, t'as pas le droit de dire pour ou pas pour à chacune de mes propositions. Tu en as 10 et tu auras le droit de revenir si tu veux, hein, sur une au moins, d'accord ? Donc alors Suzy, tu es prêt ?
Oui !
Pour ou pas pour que le mot Hungaroring devienne exceptionnellement un mot compte quadruple au Scrabble ?
Pour ?
Pour ou pas pour la béatification de l'architecte du Hungaroring ?
Pas pour.
Pour ou pas pour que le Hungaroring devienne la 8e merveille du monde ?
Ah, pas pour.
Pour ou pas pour que les Jeux Olympiques se déroulent désormais de façon permanente sur le Hungaroring ?
Oh, pour.
Pour ou pas pour que les canons modernes de la beauté s'inspirent des formes du Hungaroring ?
Alors, c'est du Hungaroring ou des hongroises ?
Du Hungaroring.
Pas pour alors.
Pour ou pas pour que le Hungaroring intègre enfin le patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Pour.
Pour ou pas pour que le siège des instances de l'Union Européenne soit transféré sur le Hungaroring ?
Je m'en fous, donc pour.
Pour ou pas pour que l'instauration de la prière obligatoire pour les fans de Formule 1 en direction du Hungaroring au début de chaque séance d'essais libres, de qualification ou de course inscrite au calendrier, y compris les essais privés, les essais en ligne droite et les roadshows ?
T'as pété une durite, toi ? Pas pour.
Pour ou pas pour que le titre de champion du monde de Formule 1 se décide sur le Hungaroring et seulement sur le Hungaroring.
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour que je ferme enfin ma gueule et arrête de te saouler avec le Hungaroring, qui est certes un bon circuit, mais qui vaut des cacahuètes à côté de Spa-Francorchamps, puis encore de Suzuka.
Pour.
Voilà, c'était ton pour et pas pour.
Où est-ce que t'as été chercher tout ça, toi, hein ?
Je sais pas. Ça vient tout seul, j'ai plus rien.
Je te l'ai déjà dit, Dino, la drogue, c'est pas bien.
Donc, Suzy, tu veux revenir sur quelque chose ?
Non, j'ai pas envie de revenir dessus.
Pourquoi ? Il était bien, mon questionnaire.
Non, mais sérieux. Que les canons de beauté soient sur le circuit. Très inventif, on va dire ça. Tu m'aurais dit les hongroises, ok ? Mais le circuit, non !
On va passer à toi, donc, du coup, Adelin.
Ouais.
Maintenant, on a tous un grand suspense. Est-ce que tu vas le mettre ?
Ah !
Est-ce qu'il a choisi un autre circuit ?
Ah.
Je cite de merde, hein, comme il l'a dit la semaine dernière.
Salaud !
Ouais, il a dit ça.
C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. J'ai peut-être tout entendu, mais... Alors, Adelin, tu es prêt pour le pour-pas-pour ?
Oui.
Je te rassure, c'est un pour-pas-pour normal. D'accord ? Il n'y a rien de plus, plus normal. Parce... Avec peut-être une question sur le Hungaroring. Je ne promets rien. Alors, Adelin, pour ou pas pour le retour de Kimi Raikkonen chez Ferrari ?
Pas pour.
Ensuite, pour ou pas pour l'abolition du double DRS en 2013 ?
Pas pour.
Pour ou pas pour que Jules Bianchi intègre l'écurie Force India en 2013 ?
Pour.
Pour ou pas pour les museaux à étage en 2013 ?
Pas pour.
Pour ou pas pour la diffusion des Grands Prix sur une chaîne payante ?
Pas pour.
Pour ou pas pour les essais privés en cours de saison ?
Pour.
Pour ou pas pour la fermeture estivale des usines ?
Pour.
Pour ou pas pour une saison 2013 de 20 courses avec New York mais sans Valence ?
Pour.
Pour ou pas pour la suspension des activités de pur ?
Pour.
Et enfin ?
Non, je peux changer, je vais dire pas pour.
Pas pour, d'accord. Et enfin, la réintroduction de l'épreuve de tir au pigeon avec de vrais pigeons au programme des Jeux Olympiques.
Pour.
Avec des vrais pigeons. Parce qu'il faut savoir qu'en 1900 Paris, l'épreuve
de tir au pigeon. Oui, c'est avec des vrais pigeons. En même temps, c'est pas ce qui manque à Paris.
Oui. Et il y a quand même eu 300 morts.
Enfin, chez les pigeons. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein.
Donc tu as répondu pour donc Jules Bianchi chez Force India, les essais privés en cours de saison, la saison 2013 de 20 courses avec New York mais sans Valence, et donc pour le retour du tir aux pigeons avec des vrais pigeons aux Jeux Olympiques. Nos amis, les amis des animaux vont adorer cette émission. Donc tu as le choix, tu peux revenir sur 3 sujets de ton choix parmi ces 10.
Ben d'abord... Je vais revenir sur les chaînes payantes, les grands prix qui se diffuseront sur les chaînes payantes. Moi j'aime pas trop ça parce que déjà personnellement je peux pas me le permettre, donc ce serait déjà moins évident. Et puis diffuser sur des chaînes gratuites, ça permet vraiment à ouvrir à un plus grand public. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai découvert la F1, parce que sinon j'aurais jamais j'aurais regardé la F1. Mais après, c'est vrai que si ça devient sur une chaîne payante, mais que c'est beaucoup plus professionnel avec des enquêtes et tout ce genre de choses, mais vraiment bien fait, là pourquoi pas. Mais il faudrait voir avant de pouvoir commencer, je veux dire.
Et ce qui est intéressant, toi, c'est que donc t'as découvert la Formule 1 en 2011, sur la il y a un an. Qu'est-ce qui t'a amené vers la Formule 1
Oui, c'est
exactement?
ça.
Parce que ça, nous, ça remonte à une époque où on se dit, on a des théories, des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. Voilà, c'est tout frais. Qu'est-ce qui fait que t'es allé vers la F1?
Mais moi, déjà, c'est à la base, ben, c'est sport auto, déjà. Donc déjà, c'est sport auto en général. Et puis, parce que ben, donc je l'ai suivi depuis l'année passée en Belgique. La Belgique, voilà, c'est parce que c'était en Belgique qu'on en avait beaucoup parlé. Et puis, un sport qu'on peut voir toute la course du début à la fin. Par exemple, si je prends aussi l'endurance, les 24 heures du Mans ou de Spa, on ne sait
Oui,
pas
qu'il y avait dit
voir
ce
toute la
week-end
course. Moi, ce
d'ailleurs.
que j'aime bien, c'est vraiment voir aussi du début à la fin. Ouais. Et on peut vraiment voir du début à la fin. Ça, j'aime bien tout voir. Voilà.
Alors un deuxième thème que tu voudrais approfondir?
Alors, ben, les essais en cours de saison, ça permet vraiment d'avoir vraiment du temps pour pouvoir développer les voitures, ce que ben, la plupart des teams se plaignaient de ne pas avoir assez de temps. Et ça permet aussi comme ça de libérer un petit peu de temps lors des essais des Grands Prix pour vraiment se concentrer sur le circuit en lui-même et pas commencer à devoir faire certains réglages et tout ça.
Donc à noter qu'apparemment l'année prochaine, il y aura 3 séances d'essais privés avant saison, mais
Non,
rien
ouais.
pendant la saison. Voilà, c'est d'après les premières informations qui nous reviennent. Et un troisième thème que tu voudrais...
C'est le genre d'essai, je trouve, qui pourrait se faire, pourquoi pas, ici en début, puisqu'il y a vraiment, il y a rien pendant un mois. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas mettre, allez, une séance peut-être de 3 jours pour un petit peu combler le truc aussi, parce que voilà.
Mais je
Parce
sais
que le
pas quand.
calendrier est parfois un peu fort chargé, là, il y a du temps.
Mais je crois que c'est pas Red Bull et Ferrari qui vont faire des essais à Manicourt.
Oui, mais ce sera après la pause.
Après la pause, donc
Oui,
ce sera après
parce que
l'Italie.
pour les jeunes pilotes.
la pause, elle a été instaurée pour des questions, on va dire, de droit du travail. C'est-à-dire que c'est histoire de vraiment imposer des semaines de repos aux équipes, parce que tout simplement, si on n'en mettait pas, elles n'en prendraient pas.
Un peu le paradoxe, c'est qu'on leur donne 5 semaines et que derrière on leur fait faire une semaine à
Oui,
chaque fois, quoi.
forcément.
Et qu'il peut y a des, enfin, c'est 5 semaines, mais en réalité c'est pas 5 semaines, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des,
C'est 14
voilà,
jours.
c'est 14 jours, qu'au-delà il peut y avoir des essais en ligne droite et tout ça, donc c'est beaucoup plus restreint. Mais voilà, on a imposé pour forcer les équipes vraiment à prendre des vacances, notamment par rapport à leur personnel.
Alors je crois que McLaren, ils ont déjà commencé, ils sont déjà en
Ouais, parce que,
vacances forcées.
parce qu'elles peuvent choisir quand
Et
même les
par contre, les
14.
autres, voilà. Et la plupart des autres vont attendre. Je crois que HRT, c'est la fin de la semaine. Et puis Ferrari, Red Bull et compagnie, ce sera aussi à partir de la semaine prochaine. Tu me diras, avec 5 semaines, effectivement, ils ont le temps de travailler une semaine avant, de prendre 2 semaines et
Ah,
repartir
tout à fait.
une semaine après. Et enfin, un troisième sujet, Adelin, que tu voudrais aborder?
Ben, le projet pur, donc j'avais dit pas pour, je trouve que s'il y a un motoriste en moins, déjà, on ne sait pas si Crossword va commencer, va continuer, je veux dire, ça donnerait le monopole à vraiment à d'autres motoristes et faire un petit peu plus ce qu'ils vont. Et j'aime pas trop quand il y a vraiment un seul monopole avec une seule entreprise. Et ici, on parle de Renault encore ici souvent. Et ce serait vraiment pas bien qu'il y ait vraiment Renault qui ait 6 équipes, donc la moitié du plateau.
C'est vrai que ça leur donne un poids, ne serait-ce qu'en termes de voix, enfin
Ah
un
oui.
poids qu'ils ont d'ailleurs déjà aujourd'hui, puisque c'est eux qui ont le plus de moteurs, mais c'est vrai que ça leur donne un poids avec les équipes associées, un poids politique qui est plus fort.
Exactement.
Donc on va passer maintenant à l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines.
Ah ben l'actu que j'en ai rien
La
à foutre,
prolongation de
c'est vraiment
Spa.
en général, ben on est en plein dedans, c'est vraiment. C'est vraiment les rumeurs de transfert, tout ça. Moi, je m'en fiche. J'en tiens compte seulement quand c'est officialisé. Comme on parlait de Weber chez Ferrari, je m'en foutais. En plus, il reste chez Red Bull, donc c'était vraiment du blablotage pour rien. Donc ça, je m'en fiche complètement des rumeurs de transfert.
Ensuite, quelle est l'actu dans les prochaines semaines que tu aimerais lire? en dehors des Grands Prix. Enfin, tu me diras, dans les prochaines semaines, il n'y aura pas le Grand Prix. Donc. Le retour des Schumacher.
Moi, je dirais la titularisation d'Ambrosio.
Ah bah oui.
Oh non, pas un Belge.
Bon Belge.
On s'en fout des Belges.
Ah, bah, il y a eu bien trois Français. Il y a eu trois Français en une saison. Donc un Belge, pourquoi pas, allez. Hein.
Mais vous l'avez eu l'an dernier. Oh, c'est bon. Ah, ils vont quand même pas vous faire chier les Belges avec
leurs pilotes. Hein, il faut notre gloire aussi à nous de temps en temps. Hein.
Mais du coup, tu le verrais où, toi, d'Ambrosio?
Franchement, il faudrait voir en fonction des baquets qui se libèrent, mais je verrais plutôt baisse. Faut pas voir grande dans une écurie en milieu de peloton. Donc, je dirais éventuellement, je ne sais pas s'il est dans une filière, lui, mais on parle de Diresta qui irait ailleurs. Donc, je verrais bien chez Force India. Quoique Jules Bianchi reste de se faire titulariser, donc je sais pas.
Et donc au contraire, quelle actu toujours hors Grand Prix n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines? Et donc en dehors de D'Ambrosio qui ne signerait pas.
Moi, c'est que Schumacher ne serait plus en F1 l'année prochaine.
Ah, c'est vrai qu'il en a pas assez lui. Mais comprends-nous, Adelin, nous on n'en peut plus, on en a marre de Schumacher.
Quand on compare avec les saisons depuis son retour, il a vraiment eu une malchance incroyable alors qu'il faisait de super bons résultats. Et ici, enfin, le début de saison a été complètement catastrophique, mais pourtant, quand la mécanique est là, il fait de beaux résultats. Donc, j'aimerais bien, allez, une, ce serait déjà bien, mais pour concrétiser une dernière fois, pour finir sur une belle note.
Et donc, pour finir ton quart d'heure de gloire, est-ce que tu as un drive-through
Ouais. C'est un drive-through qui était au fur et à mesure des Grands Prix. En fait, je le donnerai à Maldonado. Franchement, il commence franchement à m'énerver parce que il fait perdre plein de points à d'autres pilotes. Même ici, c'était pas le cas dans ce Grand Prix-ci, mais il a fait vraiment des bêtises. Je sais pas si c'est parce qu'il vient du GP2 ou quoi, mais franchement. Ces dépassements, ils sont trop forcés et je le trouve toujours en tort. Bon, sauf à Valence où là, il y a un petit peu Hamilton qui laisse pas de place éventuellement. Mais franchement, même sur Diresta cette fois-ci, c'était chaud quand même. Donc, il commence franchement à m'énerver.
Bah, on voit qu'il est dans le collimateur parce que bon, ça a beaucoup discuté sur est-ce que c'était justifié ou pas sur Maldonado. Malheureusement, c'est Maldonado. Donc, dès qu'il commence à faire des trucs comme ça, maintenant, bah, ça tombe.
Ben, il faut bien le remettre à sa place aussi de temps en temps, hein. Parce que si on ne prend pas de sanctions, il va continuer, et puis
oui, voilà.
Il fera perdre des points encore à d'autres pilotes. Hein.
Mm. Dino, non?
Alors, moi, mon drive-through, c'est un drive-through contre Christian Horner, contre Denis Brognard, et globalement, parce que je me rappelle qu'il y en a d'autres aussi qu'on fait ces références-là, c'est un drive-through parce que vous n'êtes pas sans savoir que Romain Grosjean s'est marié avec Marion Joliès. Mmh. C'est d'ailleurs difficile de passer à côté. Alors elle fait tous les efforts du monde pour rester droit pour rester dans son boulot de journaliste. Quand elle parle de Romain Grosjean, elle dit Romain Grosjean.
Et d'ailleurs, faut préciser que depuis le début de la saison, elle n'interviewe pas Romain Grosjean. Elle s'est expliquée, elle l'a fait une fois, mais c'est parce que c'était la fois où Denis Brognard n'était pas là, donc ils étaient moins sur la grille.
Ouais.
Donc c'était vraiment exceptionnel.
Il y a justement beaucoup d'efforts de leur part à tous les deux pour pas trop montrer qu'il y a collusion. Et derrière, quand elle interroge Christian Horner sur la grille, Christian Horner, il trouve pas le meilleur moyen de lui dire « Ah ben, on aimerait bien être à la place de votre mari en première ligne ». Voilà, c'est un peu saoulant, alors que cette fille-là, elle fait vraiment beaucoup d'efforts pour montrer justement que elle fait bien la distinction entre sa vie privée et sa vie publique, que c'est franchement pas l'aider, elle, que derrière, tout le temps, de lui rappeler que c'est son mari et compagnie. Voilà, c'est moi, je trouve que c'est un peu agaçant. Pour le coup, elle, moi, j'ai rien envie de lui reprocher. C'est plutôt les autres que je trouve un peu inélégants. C'est toujours la rabaisser au fait que c'est la femme de Romain Grosjean, alors que c'est avant tout une journaliste, et que, considérez-la comme une journaliste, même si c'est la femme de Romain Grosjean.
Mais je sais pas si vous avez vu la vidéo de Romain Grosjean après le Grand Prix, mais lui aussi en parle, hein, oui, des bonnes vacances, et puis une lune de miel. Donc, je crois que c'est vraiment Marion qui fait de l'effort, mais Romain Grosjean, il se prive pas d'en parler, je pense, hein, non plus. Donc, c'est pas, ça ne va que d'un côté.
Ouais. Désolé hein, pour nos amis suisses et belges, mais moi aussi je vais parler de TF1 sur la grille. Non, deux choses. La première qui tourne d'ailleurs autour de Romain Grosjean. Alors il était deuxième, c'était vachement bien. On a bien compris que il n'y avait pas eu de victoire française depuis 96. On a bien compris que c'était la première fois qu'un Français était en première ligne depuis 99. Et allez-y, ça, ok, qu'ils en parlent dans leur émission, je comprends. Le problème, c'est qu'ils en parlent même à Romain Grosjean. Et bon, je pense pas que ça a influé sa course, hein, attention. Mais on pourrait peut-être justement éviter de lui mettre encore un petit peu plus de pression en disant « Ouais, vous avez vu, bientôt, quand il va peut-être faire une pause, on a l'impression qu'ils vont se mettre à genoux devant lui en disant « Gagne, gagne, s'il te plaît !»
Mais même en conférence de presse, il y a, je crois que c'est Julien Fèvreau de l'équipe qui lui a posé la question après les qualifs, et où lui dit derrière, on lui demande est-ce que ça te rajoute de la pression, et lui dit derrière, mais de toute façon, quand on est pilote de Formule 1, la pression on l'a à chaque fois. Oui. Voilà, donc c'est oui, ça rajoute un peu de pression, mais c'est pas la seule pression qu'on a, quoi. Donc on est déjà sous pression à chaque Grand Prix, ça change fondamentalement rien. Mais c'est vrai que
on est peut-être pas non plus obligé à chaque fois.
Il faut aussi que nous, on ça fait un peu les mecs désespérés, voilà. Quoi. Comme
qui
tu
s'en
dis, gringue.
Voilà, en parle en aparté, ça c'est très bien pour informer notamment les téléspectateurs, mais voilà, lâchons-le un peu, ça arrivera, et voilà. Et la deuxième, alors bon, même si c'était lui aussi son anniversaire, mais c'était lundi, Jean-Louis Moncey, alors bon, c'est vous allez me dire, c'est un truc classique, quand il nous sort sur la grille, attention, j'ai un scoop, il y a des équipes qui veulent continuer à aller vers le développement, le truc classique de F1, et il y en a d'autres qui veulent aller vers des formules monotypes, et c'est tout. Il ne dit rien d'autre. C'est-à-dire que, est-ce ouais. qu'il nous parle du RERA? Est-ce qu'il y a Bisby, par exemple, sur le règlement technique 2014? Puisqu'on ne sait pas, c'est peut-être ça. Je ne fais qu'émettre des hypothèses, puisqu'il ne nous dit rien, il ne nous dit même pas quelle équipe est dans chaque camp.
En même temps, on a vu en Allemagne que quand il avait une petite liste avec des noms précis dessus, c'était quand même foireux. Donc, je me suis peut-être dit là, je vais pas prendre de risque. Je vais pas lancer un truc.
Oui,
c'est pas trop donner de noms. C'est vrai que j'ai l'air con.
Mais là, le truc, voilà, il nous balance un
c'est
truc.
Juste pour lui donner de l'importance, un genre de truc. Oui, j'ai un scoop et voilà, et puis voilà.
C'est, ouais, le problème, c'est
à mon avis, c'est si j'ai juste entendu, c'est juste. C'est juste pour se donner un style, à mon avis, hein. Il m'énerve un petit peu aussi, hein.
Surtout que, enfin, s'il y a vraiment ce genre de bisbille, faut se rappeler qu'il y a eu des déchirements entre équipes et fédé. Souvenez-vous la précédente guerre, hein, sur les moteurs uniques et tout ça. Je veux dire, c'est des questions qui sont quand même sensibles. Hein, c'est pas oui. Voilà, c'est pas des choses anodines, donc non, alors
qui sont récurrentes de la F1, quoi, enfin les c'est-à-dire que j'ai même pas envie de dire qu'il y a une tendance vers tel ou tel camp, c'est juste que forcément ceux qui sont devant ont envie que ce soit une vitrine technologique parce
oui,
qu'ils réussissent,
bien sûr.
Et ceux qui sont derrière, bah, par exemple Sauber et compagnie, ont plutôt envie que ce soit monotype, que les coûts soient partagés et compagnie, en se disant voilà, on aura peut-être plus nos chances, la différence ça se fera sur notre travail à nous d'hommes et de pilotes plutôt que sur le travail technologique. Bah, ça, après c'est tout, voilà, ça c'est une constante de la Formule 1.
Mais s'il y a quelque chose, développe, lance pas une phrase comme ça au beau milieu du F1 à la une, qu'il y a des millions de gens qui regardent. Voilà, ça m'a énervé.
Mais non, mais surtout ce qui est terrible, c'est qu'il se permet régulièrement de donner des conseils, et notamment de reprocher à des sites. Enfin, je vais nous mettre dans l'eau, des sites comme nous, de nous reprocher de pas faire du entre guillemets du vrai travail de journaliste.
Bah, dans ce cas-là, sois un modèle.
Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu, je donne des conseils et d'ailleurs je les suis pas. D'ailleurs quand nos correspondants sont sur les Grands Prix, j'espère qu'ils lui disent bien de bonjour. D'ailleurs, j'en profite, comme on parle des Grands Prix, pour saluer le travail de Mathieu, qui a été sur les deux derniers Grands Prix, de Clément, de Romain, de Ben, qui sera au Grand Prix de Belgique dans quelques semaines, voilà, qui nous représentent sur place et qui font du bon boulot, qui vous ramènent des interviews et compagnie.
Voilà. Fan et fin, et aussi sur les Grands Prix, voilà.
Voilà.
Eh bien, messieurs, on va passer justement à ce week-end de Grand Prix.
Oh, est-ce qu'on est obligé, Shinji?
Bah, si, c'est un très bon week-end. Allez, on va commencer par les qualifications. Et je suis content de dire que pour une fois, ce n'est pas Jean-Éric Vergne qui est à la place du con. Eh non, c'est son coéquipier en plus. C'est Daniel Ricciardo, donc qui finit 18e. Vous me direz en même temps, Jean-Éric Vergne, il est 16e. Bon. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux.
Non, mais si vous regardez, c'est la
Mais il est passé en Q2, c'est mieux.
Oui.
C'est quasiment une constante. Moi, c'est ce qui m'amènerait un petit peu à relativiser encore un peu plus le bilan de Vergne. C'est que depuis le début de saison, on se satisfait en se disant il part de loin, mais il finit devant son coéquipier. Là, c'est son coéquipier qui partait derrière et qui finit devant. Faut dire qu'il y avait une stratégie aussi un peu boiteuse chez Toro Rosso. Mais il me semble que même avant son dernier arrêt, il était derrière Ricciardo. Parce que tout simplement, bah, on a plus de pneus frais. Si on joue vraiment la Q2, on a encore plus de pneus frais pour la course. Et donc, on peut aussi avoir une plus de latitude stratégique et des meilleurs choix. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça serait bien qu'il soit bon en qualif et en course.
Ah bah c'est l'idéal. En Q2, on a quand même eu du lourd, puisque en 17ème place, et ouais, Jean-Éric Vergne a fait mieux que lui, c'est Michael Schumacher.
Je crois que Rosberg est 2-3 places devant.
Il est 13ème.
C'est un week-end à oublier.
Oui, bon,
un week-end à oublier pour Mercedes là.
Pourtant, à chaque fois qu'ils viennent, ils y croient. En Allemagne, ouais, c'est un circuit qui devrait mieux nous convenir, c'est différent de Silverstone. Voilà, derrière, ils arrivent en Hongrie. Ah, oh, c'est un week-end qui devrait nous convenir, c'est différent de l'Allemagne. Donc, attendez, ça fait déjà quand même 3 grands prix totalement différents.
Oui, en plus.
Vous faites que dalle.
Ça, toutes les équipes, hein. Puis ça, les previews, on voit que toutes les équipes disent ça, hein.
Mais certaines le réalisent, d'autres non. C'est ça, la petite variation. Sinon,
comme on dit, il faut des gagnants et des perdants.
Ah oui, score moyen des Sauber hein, qui font 14 et 15, hein, Perez devant Kobayashi. Donc on l'a dit, hein, Rosberg 13.
Alors sur les Sauber, ils ont rien fait même du week-end. C'est-à-dire que c'est pas inhabituel qu'ils soient 14 et 15 en qualif.
Non.
Mais ils ont tout le temps été nuls.
Voilà, on les a pas vus.
Ils ont
week-end.
Eu des problèmes de pneus qui comprenaient strictement pas.
Ça fait surtout bas par rapport à ce qu'ils ont fait en Allemagne. Ils étaient tous les deux en Q3. Et ils avaient fait de beaux résultats en
Après,
Allemagne.
Après, c'est quand même deux circuits complètement différents, Allemagne et Hongrie. Hein. Même s'il y a une semaine, voilà, c'est...
Bah, il y a un circuit qui est tout bête, tout simple, il y a le Hungaroring.
J'aime comme tu résumes. Et puis quand même, un autre gros lot qui est quand même resté en Q2, c'est Mark Webber.
Qui était pas content. Qui était un peu plus content que Rosberg. Parce que Rosberg, il était pas content.
Ou il avait peut-être pas un problème de car, ça, je ne sais même plus.
Non, je crois pas. Et donc en Q3, eh bien, on a d'abord Hülkenberg qui fait 10.
Mais il est bien gros quand même sur le championnat, avec tout ça.
Ah oui, oui.
Sur l'ensemble du championnat, ouais.
Donc Hülkenberg qui fait 10. Tir groupé des Williams, Maldonado 8 et Senna 9. Joli coup quand même. Devant un
tir groupé. La première fois qu'ils se qualifient tous les deux en coup 3. Hein.
Oui, parce que c'est souvent l'un ou l'autre en coup 3. Ouais, tout à fait. Ensuite, tir groupé des Ferrari. Fernando Alonso 6, Felipe Massa 7. Ça n'a pas été un grand week-end quand même pour Ferrari. Pas été à la ramasse, mais par rapport aux semaines précédentes. Mais là encore, c'est pareil, c'est particulier, le Hungaroring.
Je trouve qu'ils se sont un peu mis tout seuls dans le caca. Mmh. Alors, je vois samedi matin, ils ont pas roulé la première demi-heure des essais libres 3. T'avais Alonso qui était en fond de garage, qui attendait et tout. Alors je sais pas, ils ont pas indiqué qu'il y avait eu de problème sur la voiture, mais ils ont perdu une demi-heure d'essai, sauf que on voit bien depuis le début de saison, c'est vital de pouvoir faire des essais correctement. Et là, est-ce qu'ils étaient vraiment convaincus que voilà, ils pouvaient rien d'autre tirer de la voiture et que c'est tout? Voilà, j'ai vraiment trouvé leur comportement étonnant et finalement la place elle est totalement méritée sur le week-end.
Raikkonen à la 5e place, derrière Jenson Button qui fait 4 et Vettel.
Déception pour Raikkonen. Parce qu'il avait montré beaucoup mieux, il a même pas fait. En Q3, il fait même pas le meilleur tour qu'il avait fait en Q2.
Bah après, c'est pas non plus, c'est pas un spécialiste. Ouais,
c'est vrai que surtout pour les essais, il avait fait de gros chronos, mais là, il fait pas des très jolis chronos. Enfin, ils sont potables, mais bon, là, il aurait pu faire mieux, oui. Franchement, avec ce qu'il avait montré aux essais, c'est un petit peu décevant.
Puis vu le reste du week-end des Lotus, oui, on peut dire qu'il aurait pu faire mieux. Ça, y a pas de souci. Donc Button 4, comme quoi lui pour par contre c'est on va dire que c'est dans le prolongement de l'Allemagne pour l'instant. Il a l'air d'avoir enfin compris comment marchaient les Pirelli.
Même s'il est loin quand même d'Hamilton.
Il est loin, ça c'est sûr. Donc Vettel 3, Romain Grosjean, donc on l'a déjà évoqué, 2e place. Voilà, enfin, on n'arrêtait pas de dire depuis plusieurs semaines. Il faut
ça, je m'y attendais pas, hein. Quand on voit arriver sur la ligne, franchement, deuxième temps, waouh.
Ça ne pourrait que s'améliorer dans les prochains Grands Prix, hein. Avec le double DRS et tout ça, ils ont peut-être trouvé enfin le truc pour mieux se qualifier, voire peut-être, qui sait, faire une pole, on ne sait jamais. Et donc, Lewis Hamilton...
En parlant du double DRS, il y avait Kimi Räikkönen qui l'a attesté, mais on ne sait pas si elle était approuvée. C'est Spa qui le mettrait, hein, c'est ça?
C'est ça.
Alors, normalement, ils doivent l'essayer à Spa, mais j'ai lu aujourd'hui qu'ils allaient encore continuer à travailler dessus.
Ah.
Donc, est-ce qu'ils vont encore continuer de travailler dessus, et décider après les essais de Spa s'ils le mettent ou pas pour la course? Ou est-ce qu'ils vont encore faire un vendredi et puis attendre Monza? Je sais pas.
Parce qu'ils l'ont testé la semaine dernière avec Kimi. Cette semaine, est-ce qu'ils l'ont testé?
Avec Kimi.
Ouais, mais est-ce que c'est pas suite au...
Parce qu'on ne sait pas si Raikkonen l'a approuvé.
C'est pas planté, Grosjean, en essai libre.
Ouais, il a fait une erreur. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'était le matin. Et Raikkonen l'a essayé le vendredi matin.
Ah
donc,
oui, d'accord.
Ils font les essais le vendredi matin et vendredi après-midi, ils remettent les deux configurations.
D'accord.
Mais faut aussi savoir que Romain Grosjean était parti dans, c'est ce qui explique un peu sa bonne qualification et son mauvais vendredi, c'est-à-dire que il arrive vendredi soir en disant j'ai les mêmes sensations qu'en Allemagne, et il est très loin de Raikkonen et ça va mieux le samedi parce qu'en fait ils se sont totalement remis en cause, ils avaient apparemment pris des options techniques, des réglages qui allaient un petit peu à l'encontre du style de pilotage de Grosjean et ce qui faisait qu'il était moins à l'aise avec la voiture et là ils se sont un peu tous remis en cause, ils ont retravaillé dans la bonne direction. Et ce qui fait que Grosjean a fait un très bon samedi. Donc peut-être que comme il avait ses problèmes en ce moment, ils lui ont pas donné le matériel en se disant d'abord priorité pour Grosjean, c'est qu'on trouve où est le problème, et lui Kimi qui n'a pas de problème, on lui donne le DRS à développer en Hongrie.
Pour le coup, peut-être qu'à Spa, ça sera le contraire.
Ouais. Peut-être.
Ouais. Et donc en première place, mais il a survolé la qualif, c'est Lewis Hamilton qui met justement 4 dixièmes à Grosjean. Joli.
Ouais.
Très, très beau tour de Lewis Hamilton.
Franchement, magnifique qualif, les trois parties, premier temps à chaque fois. Franchement, il m'a impressionné là. On dirait qu'en plus c'était tout facile pour lui et puis bam.
Bah, même déjà lors des essais libres, il était devant quoi. Donc vraiment, globalement, Lewis Hamilton sur ce week-end en général, voilà, il était vraiment au-dessus. Ça, il y a pas.
La seule séance qui lui échappe, c'est les essais libres 3. Et je crois qu'il finit derrière Weber à 55 ouais, ou 57 millième. Il est deuxième. Et surtout, son meilleur tour, il fait deux grosses boulettes, enfin deux belles sorties hors piste, deux belles dérobades, ou qui lui coûte facilement un ou deux dixièmes à chaque fois. Donc derrière, tu dis, il est à 55 millième derrière Weber. Bon, normalement, il doit être 3 dixièmes devant.
Et en plus, je vois avec le nombre de tours, il en a fait que 18, mais Romain, il en a fait 26. Donc.
Ah oui, non, ouais. Mais il a été vraiment royal sur le week-end. C'était donc la 22e pole pour Lewis Hamilton, la 150e pole pour McLaren, hein, ça a été dit, et la 86e pour Mercedes, à une moyenne de 194,824 km/h. Comme quoi, on va quand même vite hein, sur le Hungaroring. Et dis-nous, on va passer au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, comme toutes les semaines, peux-tu nous indiquer quel pilote ne fait pas partie du top 10?
Oui, avec sincèrement un classement qui est bien sympathique cette semaine, je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. voilà, donc on va commencer par le 23e, et je dirais les 23e puisqu'ils sont ex aequo, c'est Vitaly Petrov et Timo Glock qui marquent un point. À noter que, à titre de comparaison, le vainqueur marque 2029 points. En 22e position, nous avons Pedro de la Rosa avec 2 points. En 21e position, toujours devant Pedro, Neran avec 5 points.
Oh.
Kamui Kobayashi est en 20e position avec 8 points. Daniel Ricciardo il est dans la zone de la place du con avec 17 points, il est 19e. Perez aussi occupe la place du con puisqu'il est 18e avec 18 points. En 17e position, nous avons Heikki Kovalainen, 25 points. En 16e place, nous avons Jean-Éric Vergne, 27 points. Schumacher, 15e avec 36 points. Il est derrière Paul Di Resta, 14e avec 42 points. Nico Hülkenberg, l'Allemand, est 13e avec 46 points. Maldonado, 12e avec 71 points. Et Mister Eleven, avec une belle marche de différence par rapport à Maldonado, c'est Nico Rosberg avec 134 points.
Très bien.
Et donc là, vous vous dites, il manque quelqu'un.
Il manque quelqu'un. Alors d'abord, Dino, parle-nous donc de Schumacher. Schumacher, à qui tu as donné un point.
Oui.
J'ai envie de dire, parce que... pourquoi?
Non, mais il y a deux raisons. Je vais donner un point. D'abord parce que...
pourquoi?
Sur la liste des 24 pilotes, il n'y en a que 9 vraiment que je voulais mettre dans le top 10. Et j'ai même failli envoyer un... J'ai failli t'envoyer un top 9 et j'ai failli saisir un top 9. Mais je me suis dit non, faut jamais être un dixième. Et il y a deux choses qui ont fait que je voulais parler de Schumacher. D'abord parce que il faut quand même qu'on parle de Schumacher.
C'est vrai.
Voilà. De Schumacher qui ne sait plus comment on se place sur une grille de départ. C'est horrible.
C'est terrible.
Ouais, alors ça, je comprends pas. Comment est-ce qu'on fait pour se tromper? Allez, il y a tous les pilotes devant lui et il suffit de choisir le côté et non, il n'y arrive pas. Là, j'ai pas compris, franchement.
Oui,
pourquoi est-ce, comment il a pu se tromper?
C'est pas un petit jeune, quoi. C'est pas.
Alors pas apparemment, il s'est arrêté un emplacement après le sien. Donc c'est pas trompé de ligne, c'est juste trompé de case. Et en fait, il a commencé à s'arrêter. Et au moment où il s'est arrêté, il a vu qu'il restait un emplacement de vide devant lui. Donc il dit, ah, je me suis arrêté trop tôt. Et donc il s'est dit, bah tiens, ils vont refaire toute une procédure de départ. Donc il a arrêté le moteur. Sauf que non. Et ils ont pas tout relancé. Ils ont juste refait un tour de chauffe. Donc là, il avait l'air un peu malin. Et puis l'autre raison qui fait que j'ai voté pour Schumacher, je vais donner un petit point, c'est parce que on a eu le cas par exemple de d'Hamilton en Allemagne qui a eu une crevaison et qui a dit à sa radio on abandonne, on arrête. Là Schumacher, on n'a pas eu la conversation radio, peut-être qu'il l'a dit, mais en tout cas il est reparti des stands, il a fait sa course. Il a en plus eu pénalité, compagnie.
Oui, parce qu'il est allé trop vite. Franchement, il a pas été gâté ce week-end.
Mais un peu comme Hamilton, il a fait la course, il a fait le boulot, il a roulé parce que bah voilà, il avait l'occasion de rouler. C'est un peu désespéré, surtout pour un champion comme lui, comme Hamilton il y a une semaine. Et donc j'avais mis un point à Hamilton, donc je voulais mettre un point aussi à Schumacher. Je me suis dit voilà, autant mettre un point à Schumacher. J'ai hésité avec Ricciardo et puis je me suis dit non pas Ricciardo. Non, non.
Sinon Adelin, tu as donné 2 points à Rosberg.
Tu l'as vu?
Ben non, mais bon, on le voit jamais, mais bon, c'est parce que juste il avait dit avant F1 à la une dans les interviews qu'il voulait être dans les points, il était dans les points et donc il a fait ce qu'il voulait, puisque quand les pilotes remplissent leur objectif, j'aime bien, donc voilà.
Il était dans le point.
Oui, il a
dans
répondu,
le point.
Il a répondu justement à Marc Jolès en disant presque tout penaud, oui, on manque de vitesse, et tu sais, il le dit de façon très polie, mais on sent que derrière, il a envie surtout de beaucoup de vitesse supplémentaire sur sa Mercedes.
Mais c'est terrible pour lui, c'est-à-dire que il a gagné, il s'est vu jouer le titre et compagnie au bout de quelques courses,
oui.
Et derrière, voilà, enfin Mercedes pour le moment, c'est sombre.
Ah, oui.
Mais apparemment, il y a du remaniement dans l'air, hein. C'est-à-dire que là, ils ont engagé.
Même Sauber les rattrape et Sauber est là dans la ligne de mire, donc c'est franchement.
Là, il y a un ingénieur qui a été recruté et qui apparemment pourrait prendre la direction technique, sauf qu'ils ont déjà recruté des gens l'année dernière et pas n'importe qui. Donc, on commence déjà à se poser des questions si Aldo Costa, Bob Bell et compagnie vont bien rester chez Mercedes.
Aldo Costa, vont pas être casés, qui avait une bonne réputation à Ferrari.
Donc voilà, c'est chez Mercedes, il y a bien évidemment il y a le conseil d'administration qui va se réunir, mais il y a aussi apparemment dans l'équipe du remaniement dans l'air et même j'ai envie de dire même Ross Brawn, sa place n'est pas nécessairement
mais il a pas des parts
super
dans l'équipe.
Mais oui, mais après c'est pas non plus sûr que derrière Mercedes le laisse à la direction. Mercedes a quand même la voie suprême et c'est pas sûr qu'il laisse Ross Brawn. Parce que si la départ, elles sont vraiment minoritaires.
Oui, oui. Très bien. On va commencer le top 10. Alors, la 10e place, elle va être rapide, je pense. Puisqu'il a marqué 214 points. Moi, je l'ai donné 1 point, mais c'est uniquement au classement. Parce que, comme Dino, il y avait que 9 qui comptaient. C'est Felipe Massa.
Je pense que les gens ont voté au classement.
Oui, voilà.
Pour le coup, j'aurais plus donné de points à Rosberg qu'à Massa. Tu vois.
Oui.
Il y a une petite remontée de Rosberg. Il a remonté 3 places.
Mais totalement absent, là, franchement.
Ah là, oui.
En plus, il perd beaucoup de place après la qualif.
Voilà, il part normalement juste derrière Alonso, quand même, hein.
Mais c'est ça qui est dommage, c'est que jusqu'à la course, il fait un très bon week-end où il se bagarre avec Alonso. Et c'est ça vraiment qui est étonnant dans le week-end de Ferrari, c'est vraiment dans les essais. J'ai vraiment l'impression que Ferrari s'est laissé prendre, que Ferrari et Alonso étaient déjà en vacances. Et derrière, bah du coup, Massa en a profité parce que en interne, pendant les essais et compagnie, il était bien dans le rythme d'Alonso. Et puis, bah c'est les rivaux de Ferrari qui en ont profité aussi pendant la course. Donc, voilà, moi j'ai vraiment une impression très bizarre sur cette course à propos de Ferrari.
Alors, on va passer tout de suite à la 9e place. Il a marqué 222 points. Adelin, tu lui as donné 1 point. Je lui ai donné 4 points. Dino, tu lui as donné 6 points. C'est le manquant. C'est Charles Pic.
Ouais.
Donc Marussia marque ses 2 premiers points cette année.
Et dans l'histoire du SAV, je crois.
Oui, en plus, oui, dans l'histoire du SAV, tout à fait.
Dans l'histoire du SAV, Marussia et HRT ont marqué plus de
points. Au moins, ça permet de revenir à HRT qui ne mérite même pas. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais tu te rends compte quand même que Charles Pic, il fait une meilleure course que Kartik Leyon, il a encore moins de points que lui.
Tiens, d'ailleurs, ouais. Symboliquement, dans mon tableau, eh bien, je mets Marussia devant HRT. Voilà.
Bravo, j'ai dit.
Bon choix.
Bon, après, dans le classement du SAV, je pense que HRT ça sera devant.
Mystère.
Oui, c'est pas alphabétique, je pense, donc du coup.
Sans doute.
Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire avec Qatarham, hein.
Alors?
Bon, ça, là, il y a quand même le phénomène pilote français qui doit jouer un peu.
Oui,
ouais, c'est vrai, c'est parce que moi, je l'ai mis aussi parce qu'on en parle beaucoup, les commentateurs en parlent beaucoup. Oui, il est devant son coéquipier. On en parle aussi chaque semaine, mais bon, c'est peut-être aussi ça qui m'a influencé de mettre un point. Mais bon, c'est quand même franchement devant, donc je l'ai quand même mis.
Oui, c'est vrai que je pense que ce qui joue aussi dans sa position
là,
un peu la même manière que Kartik Leyon avait été promu par la chronique de Quentin quelques jours avant. Là, ce qui joue un petit peu en la faveur de Pic, c'est que c'est généralement des gens le fond de peloton, on en parle très peu. Oui. Et là, c'est vrai que Pic, tout le monde en a un peu parlé parce que voilà, d'abord nous, on en a parlé parce que c'est un Français, et derrière, c'est vrai qu'il a quand même la différence avec Glock était assez importante. Donc du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que sa course est énorme, sauf que finalement,
je crois
sa
même
course,
qu'on
on l'a pas
vu. On a dû le voir 10 secondes avec.
Bah, on a vu aussi son coéquipier 10 secondes, mais c'était les 10 secondes où il partait en tête à queue.
Oui. Non, un moment, Pic, il n'était pas à côté de Schumacher, justement.
Ah, c'était joli, ça, quand même. Info,
oui, il y a aussi ça, je pense, aussi, qui a compté.
Donc voilà, je pense que c'est plus dans le symbole et dans les trucs, parce que fondamentalement sa performance, on peut pas nécessairement bien la juger vu qu'on a beaucoup
non,
mal à
y a,
la
face. Il y a l'ensemble, je veux dire, ces deux points, il les mérite quand même. Je veux dire, même sur l'ensemble, il n'y a pas de souci.
Bah, sur ce qu'il fait depuis le début de saison, voilà, enfin. Moi, j'en aurais donné bien plus que
c'est
ça.
C'est vrai, il y a un article. Apparemment, entre Glock et Pic, ça commence à, il commence à y avoir de la tension, on va dire.
Mais même, voilà, enfin, on sent même en interne les déclarations très élogieuses de Marussia. Sur Glock, on voit clairement qu'aujourd'hui, Glock est un peu en difficulté et que c'est pas que la monoplace qui le met en difficulté. Et puis là, on voit en course, enfin, il part en tête à queue. Pourquoi? Sans doute parce qu'il attaque beaucoup trop fort derrière Pic et qu'il y arrive pas. Il a été derrière Pic tout le week-end et il n'y arrivait pas. Et je pense qu'il a peut-être attaqué un chouïa trop fort et que derrière, voilà, c'était trop.
Et comme dirait Malbranche en course, qui est pour mes essais, il a répété pendant tout le week-end un site de je ne sais plus quoi, a donné 9/10 à Pic. Et mais attention, Malbranche n'aime pas les cotes. Hein, ça, il l'a répété au moins 5 fois sur
vrai,
tout le week-end.
Ouais,
Moi, j'adore quand il dit, voilà, je n'aime pas donner des notes, mais quand même.
Il lui a donné 9/10. C'est bien. À la 8e place, je lui ai donné 2 points. Dino lui a donné 2 points. Adelin lui a donné 4 points. C'est Marc Weber qui totalise 452 points.
Je l'ai mis pourquoi, déjà?
Tu ne l'as mis que 9e. Hein.
Oui, bon, ça devait être au classement ou un truc dans le genre.
Ah, donc pour toi, ce n'était pas exactement les 9 premiers qui comptaient.
Oui, non, mais parce qu'il ressortait un petit peu du lot. Enfin, voilà, il rentre dans le top 10, il marque des points, il est remonté fort. J'ai même cru à un moment donné qu'il allait peut-être pouvoir jouer de la gagne, parce qu'il était sur une stratégie décalée et tout. Et puis, ils sont partis sur une stratégie à 3 arrêts, très offensive. Les autres étaient sur 2 arrêts, donc du coup, à la fin, ça qui finit plus loin que ce qu'il aurait pu être.
Quand même mauvais week-end. Hein.
Mais moi, je l'ai mis aussi 8e parce que j'avais mis Pic 10e et Rosberg 9e, mais je voulais quand même le mettre parce que bon, c'est un mauvais week-end, mais il est pas pourri. Et puisque j'avais les deux en 9e et 10e, je l'ai mis 8e.
Dans ce cas, on va passer à la 7e place. 641 points. C'est un pilote McLaren. Non, c'est pas Alonso, bien. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire?
J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive?
Hamilton, bien évidemment. C'est Jenson Button.
Ça aurait été drôle, Hamilton.
Ouais, et Adelin, on lui a mis 6 points, et Dino, tu lui as donné 4 points. C'est sûr que si ça avait été Hamilton, ça aurait été quand même une grosse surprise.
Ah oui.
Non, Button, non.
J'ai trouvé sa course, décevante. Il perd 2 places aussi, et j'avais mis à cause d'une mauvaise sortie des stands, mais je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, parce qu'il est, il est tombé dans le trafic, et ça aussi, l'écurie doit en tenir compte, et, il est tombé en plein dedans.
Et il est resté en plus derrière Alonso, je crois.
Donc,
et il a fait toute la fin de course derrière Alonso. On a eu le Reddit du Grand Prix d'Allemagne.
Et puis en Hongrie, c'est mortel, hein, ça.
Ah, ça, le trafic, ça a coûté cher à beaucoup de pilotes, hein. Les erreurs de trafic. Pourtant, c'est inhabituel chez McLaren. Ils ont toujours été relativement leaders dans la gestion du trafic. Voilà.
6e place, 718 points. C'est pas la première fois qu'il marque des points. C'est Bruno Senna.
Ouais.
Senna, je lui ai mis 8 points, comme toi, Dino, et Adelin lui a donné 10 points. Très belle course. Mais, enfin, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il est en danger, il fait de belles courses.
Oui, voilà, c'est le truc qui me, enfin, j'ai failli le mettre plus haut. Parce que vraiment, j'ai vraiment aimé sa course et compagnie. Mais en même temps, je me suis retenu de le mettre plus haut parce que je me suis dit, voilà, c'est typiquement le pilote. Et ça ne fait que confirmer ce que je pense depuis des années de Bruno Senna. C'est que c'est un pilote qui ne se bouge un peu le popotin que quand il est sur un strapontin. Et, bah là, il est sur un strapontin et il se bouge les fesses. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage et que ça ne fait que confirmer qu'il mérite pas son prix Lorenzo Bandini.
Mais moi je l'ai mis assez haut parce que il est pour une fois, je crois, devant Maldonado. Pour une fois que je peux lui mettre des points, je me suis dit bon, allez, je m'en prive pas, je le mets assez haut. Surtout que c'était pendant les essais libres 2, je crois. Il avait fait quand même troisième. Donc c'est surtout pour l'ensemble du week-end, même si bon, parce qu'ils sont peut-être en danger, mais il a quand même la capacité de le faire, il l'a fait, donc j'ai pas été dans les points.
Mais c'est vrai que ça a été sur l'ensemble du week-end, il a été devant Maldonado, il a été très rapide en essai libre. C'est vrai qu'il a fait une quatrième place, je crois, le vendredi après-midi. Il a été très rapide aussi le samedi matin. Il a été pas mal en qualif aussi. En qualif, il a vraiment pas été mauvais. Donc voilà, c'était un bon week-end dans l'ensemble. Ouais.
C'est dommage parce qu'on pourrait se dire que ça se fera pas, mais à la limite, ce qui pourrait être tentant pour Williams, c'est de mettre Bottas, mais pas à la place de Senna, à la place de Maldonado. Même si on sait que financièrement, c'est pas possible, mais sportivement, ça serait peut-être plus intéressant.
Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi se demander si le retour en forme de Senna n'est pas dû au fait que peut-être que depuis le début de saison, une grosse partie de l'équipe travaillait plutôt pour Maldonado et voilà, surtout dynamisé par la victoire de Maldonado en Espagne, et que là, ils commencent peut-être un petit peu à se lasser de voir tous leurs efforts, un peu comme McLaren l'an dernier avec Hamilton. Peut-être que les ingénieurs de chez Williams commencent à avoir un petit peu ras-le-bol que leurs efforts soient ruinés par le comportement de Maldonado en course, et donc, ils sont peut-être se tournent peut-être un peu plus désormais vers Senna en disant, on va lui donner sa chance, on va lui donner des bons choix, on va bien travailler sa voiture. Parce que lui, mine de rien, même s'il est loin derrière, au moins il fait le boulot et il essaye de maximiser la voiture et de faire des bons résultats.
Loin derrière, tu sais, si on prend le bilan comptable, hein, c'est quand même ça qui reste au final. Maldonado, il n'a pas marqué un seul point depuis sa victoire, pas un seul.
Ouais.
Hein, il est à 29 pour quelqu'un qui a gagné un grand prix, ça fait maigre. Hein, tandis que Senna, certes, est derrière, mais il est à 24 points. Hein, il marque pas forcément à chaque Grand Prix, mais voilà, il rapporte des points.
Mais il est régulier.
Il est quand même plus régulier.
Mais il y a, je crois que c'est Automoto Sport qui a fait un calcul.
C'est vrai que c'est des pilotes très très différents. Hein. Maldonado, il donne tout d'un coup, il fait des coups d'éclat, mais après, il gâche beaucoup 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 d'occasions, il perd beaucoup de points. Tandis que Senna, il est un petit peu moins bien tout au long, mais il est beaucoup plus régulier. Je crois que c'est la régularité qui doit payer et qui doit être primé.
Mais je crois que c'est Automoteur und Sport qui a fait une étude la semaine dernière après le Grand Prix d'Allemagne, où ils ont calculé que donc les deux pilotes qui avaient perdu potentiellement le plus de points, c'était Romain Grosjean qui était deuxième avec 18 points perdus, enfin j'ai plus le chiffre exact en tête. Et Pastor Maldonado qui aurait perdu au total avec ses incidents depuis le début de saison 45 points.
45. Il y a pas Hamilton pas très loin donc.
Alors après je sais plus qui c'est.
Parce qu'Hamilton a...
Mais par leur propre faute en fait. C'est Hamilton, il perd des points surtout à Valence, mais le reste.
Non mais même souviens-toi au tout début de saison, là encore c'était pas de sa faute, mais il a perdu des points aussi.
C'est sûr que là mais je pense que là vraiment Automotor Sport ils se sont vraiment concentrés sur les résultats gâchés par le pilote.
D'accord.
Et c'est vrai que Grosjean a perdu de potentiellement bons résultats notamment au départ. Donc là, c'est peut-être là où la technique de calcul est la plus douteuse, parce que tu dis, entre le départ et l'arrivée, il y a quand même... comment vous êtes convenu de vous dire, ah tiens, Grosjean, il aurait fini là en Malaisie.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de points, il a perdu le double de points de ce qu'il a actuellement, Maldonado, c'est juste impressionnant.
Messieurs, on va passer à la cinquième place, qui sera peut-être rapide d'ailleurs, on va voir. Il a marqué 871 points, c'est l'autre pilote Ferrari. Parce qu'il est bien chez Ferrari, il est pas chez McLaren, malgré les conneries que je peux dire. Voilà, il est bien chez Ferrari cette année, en tout cas, c'est Alonso. Je lui ai donné 10 points, Dino, tu lui as donné 10 points. Adelin, tu lui as donné 8 points. Course, on va dire, il était derrière ceux vraiment...
Bah oui, parce que il a pas fait une énorme course, hein. Il part Il part sixième, il finit cinquième.
Il fait pas non plus mauvais score.
Voilà, il y a
Voilà.
pas vraiment joli joli.
C'est une bonne opération.
Ah, tout à fait, pour lui, c'est une bonne opération.
parce que alors c'est vrai que j'ai un peu regretté que les commentateurs de TF1, je m'excuse encore une fois auprès de nos amis belges et suisses et québécois et tous les amis autour du monde qui sont pas en France et qui ont pas le bonheur d'avoir TF1 comme chaîne de rediffusion.
Tu sais, ça se trouve, ils ont encore plus de choses à dire sur leurs commentateurs. Ça se trouve, nous, on est super soft.
Oui, ça se trouve, oui. C'est pour ça qu'on veut un Québécois dans l'émission à un moment donné, pour qu'il nous raconte. Bah
tu
non,
sais
ils
que
ont...
moi je regarde la TF1, même si on a la RTBF, mais j'aime pas les accents des présentateurs belges. Hein, donc je regarde. Je suis peut-être maso, mais je regarde quand même TF1.
Mais non, sur Alonso, voilà, moi j'aurais bien, alors, sur TF1, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même qu'à la fin, il rappelle, dans les faits marquants, c'est que mine de rien, ça reste quand même une bonne opération pour Alonso, puisqu'il a repris, je crois, ses 3 points d'avance sur Weber, qui reste son dauphin, et qu'il a cédé des gros points, entre guillemets, qu'à des mecs qui étaient beaucoup plus loin. Donc du coup, ça se resserre derrière lui, la menace va être multiple. Donc va falloir pour lui regarder différentes choses, mais quand même il a quand même conforté sa place en tête du championnat,
Mais
donc c'est pas une mauvaise
faut
opération.
rappeler que Alonso, parmi tous les talents qu'il a, hein, peut-être que ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous, peut-être Adelin, tu ne le sais pas par exemple, mais un des grands talents d'Alonso, sur lequel notamment, on veut dire, il a en partie, pas que pour ça, mais construit par exemple son premier titre, souvenez-vous de Alonso l'épicier.
Ah oui.
Eh oui, faut pas l'oublier. C'est pour ça que les points d'avance qu'il a maintenant, ça va être galère, parce que s'il y a un type qui sait économiser et, comme on dit, prendre les points intermédiaires, c'est bien lui.
Mais c'est en ça que le Grand Prix de Hongrie était intéressant du point de vue d'Alonso et de Ferrari, c'est de se dire, c'était un peu la synthèse de à la fois le meilleur scénario possible et le pire scénario que pourrait arriver à Ferrari. Le meilleur scénario, c'est de se dire, bah, finalement, il peut se contenter aujourd'hui d'avoir une cinquième place. Les mecs sont tellement en train de se chamailler derrière que lui, s'il est tout le temps à peu près sur le podium ou sur la troisième place, sur la cinquième place, mais que derrière ça change tout le temps et que devant ça change tout le temps, bah, il va toujours avoir à peu près le même coussin ou l'agrandir ou perdre peu de points, donc c'est bon pour lui. Mais en même temps, le côté un peu négatif qu'on a vu aussi ce week-end, et c'est ce que d'ailleurs a dit Alonso, il a dit si on continue comme ça et qu'on n'a pas une meilleure voiture, ça ne suffira pas. Et c'est vrai que si aujourd'hui il y a une équipe, on peut notamment par exemple penser à McLaren, une équipe et un pilote qui se met à mettre le turbo et à être régulièrement devant Alonso, ça va vite revenir parce que s'il n'a pas la voiture pour faire les bons résultats, Fernando, bah son avance de 40 points, elle suffira pas. Donc à la fois c'est confortable pour pouvoir faire l'épicier, mais
Il y a
seulement
encore des
si le
efforts à faire,
contexte,
oui.
voilà, si seulement le contexte reste à quelque chose de très
C'est quoi
disputé.
en fait Alonso l'épicier? Qu'est-ce que c'est ça, raconter en deux mots?
Eh bien peut-être que ceux qui sont un Notre, enfin, si ceux qui ont notre génération et qui ont connu les titres des milieux des années 2000 le savent, mais justement, il avait ce talent de ne pas, c'est le talent qui fait que, bah, parfois, au lieu d'aller chercher une victoire ou une deuxième place, eh ben, t'es troisième et tu gardes ta troisième place parce qu'il vaut mieux assurer une troisième place et récupérer entre guillemets aujourd'hui 15 points que de faire le con et de tout perdre. C'est les fameux points intermédiaires dont parle souvent Jean-Louis Moncey. Et qui reprend en fait les termes
Ouais.
d'Enzo Ferrari, c'est tout à fait ça.
Il aime bien ça,
C'est
Jean-Louis,
voilà, tout à fait.
intermédiaire.
Non mais c'est tout à fait ça. C'est imagine, si Alonso par exemple ne gagne plus aucune course, mais qu'il finit tout le temps deuxième ou troisième, ça passera.
Et si devant c'est toujours des gens différents, ça passera.
Donc si tu veux, c'est le côté épicier, enfin dans le côté, oui je grappille des points un petit peu partout, je grappille peu de points, mais j'en grappille tout le temps. Parce que pour reprendre l'exemple de 2005, Alonso démarre très très bien la saison. Quand on arrive en Europe, il a près de 20 à 30 points d'avance sur Raikkonen. Et même si ce qu'on retient de la saison, c'est une opposition entre Alonso et Raikkonen, en fin de saison, il a 20 points d'avance sur Raikkonen. Parce qu'il a toujours plus ou moins su gérer cette distance pour avoir un petit peu d'avance. Même si parfois Raikkonen est revenu un petit peu sur lui, il a su gérer justement ces points d'avance qu'il avait.
Et c'est sa 23e arrivée dans les points.
Et épicier ne veut pas dire
la régularité.
Loin de là.
Mais c'est là où je pense, c'est là où vraiment faut. Je pense que c'est nécessaire aussi de faire une distinction.
Tout à fait,
C'est-à-dire souvent par épicier, on entend des choses qui sont assez négatives. Quand on disait épicier de Button en 2009, c'était plutôt négatif. Sauf que épicier, ça a aussi un côté positif. C'est au sens intelligence de course. Bah, ce que disent les grands patrons, c'est que voilà, quand tu peux pas gagner, les points intermédiaires sont cruciaux. Et ça, c'est un truc, c'est une consigne que Fernando Alonso s'applique lui quasiment tout le temps. Enfin voilà, ça fait 23 grands prix de suite qu'il est dans les points, que même avec une mauvaise voiture, il vise les points, il se contente, il est très calculateur. C'est un peu ce qu'on reproche parfois à Alonso, c'est qu'il est très calculateur, très comploteur même parfois. Donc voilà, c'est sa force, c'est aussi sa faiblesse.
Mais moi je l'ai mis un peu plus bas parce que en fait je mets dans mon top 10, je compare aussi souvent en course, et puisque là il m'a pas très impressionné, c'est pour ça que je l'ai mis sixième et que je l'ai pas mis plus haut. Mais c'est vrai que du point de vue comme tu dis, il met encore des jolis points, et que il perd pas de terrain sur les deuxièmes et troisièmes. Là c'est vrai qu'il fait une bonne opération. Ouais.
Et d'ailleurs, à part en Chine et à Bahreïn, il a toujours marqué au moins 10 points. Donc il est toujours, il est quand même toujours sur une moyenne plutôt haute au niveau des classements. Mais si on va passer à la quatrième place, là attention, on dépasse les 1000 points, puisqu'on arrive à 1079 points. On l'a tous les trois mis, d'ailleurs, quatrième avec 12 points. C'est Sébastien Vettel, qui est revenu vite à la fin, très vite même.
Ouais, franchement, il aurait dû le faire plus tôt, parce que s'il avait fait plus tôt, il aurait bien il aurait certainement dépassé Grosjean avec l'avance qu'il les temps autour qu'il faisait. C'est un peu en fait le même truc qui s'était passé au Canada. On l'avait attendu avec la dégradation des pneus, mais franchement, s'il était rentré cinq tours plus tôt, à mon avis, il était devant Grosjean.
J'ai eu l'impression que c'était un peu improvisé, cette stratégie. C'est-à-dire que il était plutôt parti sur un truc à deux arrêts, et que quand ils ont vu qu'ils pouvaient se permettre de faire un arrêt,
ils avaient rien à perdre.
Qu'ils avaient l'avance nécessaire, qu'ils avaient rien à perdre, finalement tout à gagner, ils se sont dit, allez, on rentre, il va attaquer comme un damné sur la fin, et puis, on verra bien ce que ça va avoir.
Ils avaient raison de
le faire. C'est comme au Canada, ils se sont dit, on rentre, nos pneus, ils sont crevés, c'est la même chose au Canada.
Après, il fait pas non plus une course, Tony Turner, enfin, vous voulez dire aussi, que les trois de devant font ont beaucoup animé la course. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Vettel, c'est rare.
Oui, mais tu sais bien qu'il y en a d'autres qui ont un peu monopolisé la course cette semaine.
En tout cas, étonnamment, on n'a pas bouffé du Red Bull comme on pensait qu'on en boufferait. C'est assez étonnant de voir quand même l'aisance dont ils font preuve à Valence. Et puis derrière, finalement, ils ont un peu peiné à confirmer leur domination. Au point même aujourd'hui de pas forcément dominer. Alors est-ce que c'est dû aux polémiques, cartographie?
C'est vrai que depuis Valence, on dit on va nous voir une domination Red Bull, tandis que pas vraiment, on l'a pas vraiment cette domination. Donc je sais pas s'ils sont en retard dans leur amélioration de la monoplace, ou si c'est les autres qui ont amené plein de trucs, comme McLaren qui est vraiment arrivé avec plein de trucs. Mais on a vraiment pas cette domination qu'on attendait, qu'on avait prédit à Valence.
Je serais même plus dur. Bon, il y a le coup de la cartographie, mais on sait pas trop où elle est, cette Red Bull. C'est difficile de faire une hiérarchie entre les quatre premières équipes. Mais je sais pas, il manque un truc à cette Red Bull. C'est bizarre. Il y a une sensation bizarre autour de cette voiture et de cette équipe.
Mais j'ai globalement envie de dire que, de toute façon, depuis le début de saison, à chaque fois on est pris au dépourvu. Enfin, on voyait Red Bull dominer à Valence, puis derrière, en fait, on se rend compte que Ferrari est pas mal, donc on commence à se faire des films sur Ferrari. Ça y est, ils ont la meilleure voiture. Les gens commencent à dire Ferrari, c'est bon, Alonso, la meilleure voiture. Aujourd'hui, on voit en Hongrie que c'est pas le cas.
Commence à se faire des nouveaux films cette semaine.
McLaren qui disait en Grande-Bretagne, quand t'écoutais les pilotes, c'était quasiment il faut revoir toute la conception de la voiture et compagnie. On est trop loin. J'ai pas non plus l'impression que McLaren ils aient apporté d'énormes trucs sur leur voiture. Donc je me dis, c'est soit le développement, effectivement, où chacun amène son truc et donne un avantage, et tellement les écarts sont pas serrés qu'il suffit de gagner un dixième pour te retrouver devant. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Je pense vraiment que c'est tout simplement, c'est que cette saison, l'équipe qui arrive à tout enfiler comme des perles, on l'a vu ce week-end avec Lewis Hamilton, on l'a vu à Valence avec Sébastien Vettel. Moi, je pense que c'est vraiment cette saison, ça se joue sur la préparation, et que finalement, voilà, peut-être que la performance de la Ferrari de ce week-end, elle est, voilà, c'est juste qu'ils ont pas eu un week-end tranquille, donc ils sont un peu en retrait, que Hamilton, il a eu au contraire, il a marché sur l'eau et parce qu'il avait une superbe condition de voiture. On voit même des écarts entre voitures, enfin, Button, qui était relativement quand même loin d'Hamilton en qualif, qui a pas su concrétiser en course. Donc je pense que tout simplement, c'est que c'est notre logiciel d'interprétation de la Formule 1 qui est plus bon. Faut qu'on le mette à jour à chaque Grand Prix, et c'est moi ce qui m'enquiquine un peu dans la F1 de cette saison, c'est cette absence de repères. C'est-à-dire que on est tout le temps en train de se faire des films et en train de se dire ah Ferrari ils sont en train de revenir, McLaren sont en train de revenir et compagnie. Sauf que deux Grands Prix derrière, on nous dément. Donc finalement, moi ça fait déjà plusieurs Grands Prix que je suis prudent envers chaque truc, et on devient quasiment trop prudent. Moi j'aimerais avoir des certitudes, sauf qu'aujourd'hui on est arrivé, on a fait 11 Grands Prix sur 20 et je n'ai strictement aucune certitude. C'est-à-dire que je m'aventurerais même pas à dire tiens c'est telle ou telle équipe qui va finir la fin de saison.
Impossible, et j'avoue que c'est impossible de dire aujourd'hui quelle est la meilleure voiture.
C'est pareil, tout le monde commence à se faire des films sur Lotus, tout le monde commence à s'inquiéter sur Lotus. Oui, sauf qu'il y a deux Grands Prix, tout le monde s'inquiétait sur Ferrari, il y a trois Grands Prix, tout le monde s'inquiétait sur Red Bull. Donc voilà, c'est... Maintenant, il suffit juste de faire deux bons week-ends pour qu'on soit au sommet de la F1.
Bon, après, on va dire que ça s'est quand même restreint à 4.
Bah, je dirais que la seule certitude qu'on a, c'est que Mercedes, ils sont pas du tout dans le
coup. Non, ça...
Parce qu'en dehors de ça, derrière...
Non, mais parce qu'on voit quand même un petit peu moins. Alors bon, les Force India, on les a pas vus au début, on les a vus un peu, on les voit un peu derrière. Même les Sauber, on les voit un petit peu moins qu'au début. C'est ce que je veux dire. Il y a quand même 4 qui se détachent maintenant.
Bah, je dirais qu'il y a deux groupes de 4. Il y a le groupe des 4 de Lotus, Ferrari, Red Bull et McLaren. Et puis il y a un groupe de 4 derrière composé de Williams, de Force India, de Sauber et de Mercedes. Oui. Il y a un groupe de 1 avec Toro Rosso.
Qui est coincé quelque part dans les limbes.
Il y a un deuxième groupe de 1 avec Qatar. Il y a un groupe de 2 vers la fin qui commence peu à peu de devenir deux groupes de 1. Donc voilà, c'est... Ça se décante par le bas. Alors après, certains vont trouver ça intéressant, mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand même avoir des repères.
Mais moi, quand même, ce que je retiens, c'est quand même, en gros, ta Ferrari, bon, qui était nulle part, qui augmente bien. Bon, même si ce week-end c'était un petit peu moins bien, mais bon, comme tu disais, il y a peut-être les vacances, donc qui monte bien. Puis t'as McLaren qui était au top, qui a eu un creux, mais ça va, ça remonte. Lotus, toujours une très bonne voiture, mais ça n'a pas su très bien se concrétiser. Moi, c'est vraiment ce que retiens. J'ai presque en tête des courbes avec ça va pas, mais j'arrive quand même plus ou moins à voir les écuries en forme. Il y a toujours ce genre de truc. Il peut y avoir des mots, mais ça revient parce qu'on voit vraiment McLaren qui était super bien en Australie et tout ça, et mais qui reviennent vraiment au top.
Eh bien, passons au podium. Vous avez déjà une petite idée de qui le compose?
Oui. Ce qui nous intéresse, c'est l'ordre.
C'est l'ordre. Alors, en troisième place.
Ah bah oui, forcément, les trois.
Il a marqué 1516 points.
C'est pas mal, déjà.
C'est un beau score. Il roule pour Lotus. Déjà, ça vous limite à deux.
Ah. Il y a du blanc et du bleu dans son drapeau.
Il y a du blanc et du bleu sur son drapeau. Il n'a pas roulé en F1 depuis 2 ans. Et...
Il a un rapport avec Alonso?
Oui, il a un rapport avec Alonso. C'est le jeune marié. C'est Romain Grosjean. Grosjean, que j'ai mis 3e, comme Adelin. Et toi, Dino, tu l'as mis 2e.
Ouais.
Ça avait bien commencé. Il avait su se maintenir à la 2e. Et puis, malheureusement, il y a déjà cette sortie où il se retrouve derrière, il perd du temps, avec notamment visiblement une affaire de drapeau bleu avec Schumacher.
Oui. Il y a ce boulier était pas content après la course.
Il y a ensuite le fameux dépassement.
On a vu l'histoire du drapeau bleu avec Schumacher, c'est plutôt une excuse parce que il a l'air vraiment de se plaindre, mais on n'a pas vu en course. Hein. Franchement, ça, oui. Je crois que c'est plutôt une excuse pour pas voir un truc en plus.
Ah, attention, c'est pas parce qu'on l'a pas vu que ça a pas eu lieu. Attention, voilà. Faut quand même être prudent.
Mais après, Eric Boullier a dit qu'il pouvait être inquiété, mais finalement, il n'y a pas eu de suite, donc voilà, plutôt une tempête dans un verre d'eau. Je pense que c'est surtout pour oublier le fait qu'ils ont massacré l'arrêt au stand, et que, sincèrement, pour moi, c'est pour, aussi pour ça que j'ai mis Romain Grosjean devant. Je vais dire clairement, hein, je l'ai mis devant Raikkonen dans mon classement. D'abord parce que en qualification, il a concrétisé. Il était très loin de Raikkonen en essai. En qualification, il concrétise, il part en première ligne. Donc déjà, pour moi, c'est Hungaroring. La qualification, moi, j'en tiens toujours un peu plus compte parce que c'est le Hungaroring et que la position en piste est très importante sur le Hungaroring, même si Raikkonen nous a fait mentir. Et puis en course, j'ai l'impression que c'est pas forcément lui qui a raté la course. C'est vrai que derrière Hamilton, il a commis des petites erreurs. Maintenant, j'ai envie de dire, Raikkonen, une fois derrière Hamilton, il a peut-être pas fait d'erreur, mais il a pas non plus été capable de faire la différence. Donc j'ai envie de dire, ils sont un petit peu de partout. C'est peut-être parce que les erreurs de Grosjean, c'est parce qu'il a tenté justement d'attaquer. Il a perdu quelques secondes, mais il est très vite revenu dans les échappements, il a attaqué, il a tout donné, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais derrière il rentre au stand, on lui massacre son arrêt au stand, puis il se retrouve derrière Fernando Alonso, quand Raikkonen sort des stands, il est à côté de lui, et je pense que là, à ce moment-là, voilà, il se dit juste, voilà, il se voyait gagner quelques tours avant, quelques tours après, il se bat plus pour la troisième place.
Sur la fin, il a quand même eu un petit peu plus de mal à suivre le rythme des deux premiers.
Mais je pense que c'est un coup au moral. Je pense que sur la fin de course, il a pris un coup au moral. Et puis lui-même n'a pas caché à la fin de la course. Il a dit voilà, je suis déçu parce qu'il se voyait gagner et que en quelques tours, sa course elle a basculé de génial à entre guillemets moyenne sur la fin de course. Mais je pense que alors certains ont avancé la fatigue, ce que j'écarte pas, c'est pas impossible. Mais je pense que c'est surtout il a pris un gros coup de bambou derrière la tête au moment du dépassement avec Raikkonen.
Qui a dû donner bien des sueurs froides quand même à Eric Boullier. Hein.
Oui, au point qu'ils ont dit dans la radio à Grosjean, ils lui ont dit « T'es en train de se battre contre Kimi !» Genre, fais attention. C'est pas normal.
C'est vrai que c'était vraiment inattendu de qu'il se fasse dépasser comme ça par elle-même. Sinon, en soi, non, c'est vrai que du point de vue que Didino, c'est vrai que c'est une très jolie course, mais c'est vraiment... il était deuxième. Ce que je tiens à souligner aussi, c'est vraiment qu'il a su s'imposer face à Vettel au départ, ça c'est vraiment bien. Et que, mais il était deuxième, mais il finit troisième, donc c'est un petit peu la déception, mais il a tout le temps pour se rattraper.
C'est vrai qu'à son départ, je me rappelle avoir gueulé à l'écran, reste à l'intérieur, sur Romain. Oui, sur le premier virage, tu sais, avec Vettel, reste à l'intérieur! Oui. Reste à l'intérieur!
Tu l'as redit quelques tours plus tard quand c'était Kimi?
Non, je fais, va à l'extérieur! Va voir l'air!
Ah non, il fallait être à l'intérieur.
C'est vrai que c'est pas le résultat qu'il escomptait, ça reste quand même une très belle course de sa part.
Global. Ça reste un podium.
Voilà, ça reste quand même un
Puis
podium.
Il va apprendre, c'est aussi ce qu'on oublie, c'est que c'est un rookie, c'est que derrière, sur la grille, dans les six premiers, il y avait lui et cinq champions du monde, que là, il est tombé sur un Kimi Raikkonen dans le dépassement, qui a fait preuve d'autorité.
C'est peu de le dire.
J'ai rien à dire sur le dépassement, je trouve que voilà, c'est un dépassement, une défense, une bagarre, voilà. Pour moi, entre coéquipiers, on se fait un peu plus de tendresse. Je trouve que voilà, c'est au niveau de ce qu'a fait Grosjean dans une course avec Vettel. Sauf que c'est Vettel, il est sur Red Bull, donc voilà, on se fait pas de cadeaux entre adversaires. Là, entre coéquipiers, voilà, je m'attendais à ce que il fasse peut-être les choses un peu plus élégamment. Maintenant, voilà, il l'a dépassé et compagnie. Et c'est vrai qu'on l'oublie, mais voilà, c'est encore un pilote qui est en phase d'apprentissage. Et lui-même le dit, voilà, j'ai appris des choses. Et c'est ce qui est positif avec Romain Grosjean, c'est qu'à chaque fois qu'il lui arrive un truc, derrière, il dit, voilà, j'écoute, j'analyse, j'apprends. Et c'est vrai que parfois, bah, pour le moment, il refait plutôt pas les mêmes erreurs et il garde plutôt la tête sur les épaules, ce qui est bien. Voilà. Donc là, il est déçu, mais je pense que...
Mais c'est bien, qu'il soit déçu, parce qu'il est déçu parce qu'il sait que ça passera.
Bah oui,
voilà,
c'est pas loin. Enfin, c'est il pas est de loin. Plus en plus proche d'une victoire. Donc,
Mais si on va passer à la deuxième place...
Oui.
C'est un champion du monde. Il a roulé pour McLaren.
La question, c'est roule-t-il encore pour McLaren?
Il a marqué 2026 points.
Oui, retenez bien ce
chiffre. Je répète bien, 2026 points. C'est Kimi Raikkonen. Ouais, que tu as mis troisième, que j'ai mis premier. Comme Adelin, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Je te hais.
Non, 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 mais si, je dois te dire que j'ai voté bien avant. Moi, j'ai voté tôt. C'est vrai que généralement, je suis le dernier à voter. Je vote à 18h30. Là, non, j'ai voté mardi à, il était 15h. Et il y a eu d'autres votes depuis, donc. Ce moment où j'ai voté, ça n'avait strictement aucun incident sur mon vote. Après, c'est vrai qu'effectivement, si j'avais été plus sympa avec Raikkonen, il aurait peut-être pas gagné, mais il aurait eu des gros points.
La course de Raikkonen, on l'a dit, il fait un super deuxième relais. Parce que c'est vraiment là où ça, tout se joue, hein. C'est sur son deuxième relais, vraiment excellent. Et bien évidemment, sur le dépassement qu'il fait en sortie de stand, hein, ça, on est bien d'accord.
C'est la chance que Raikkonen, il perd ne serait-ce qu'un dixième dans les stands.
Ah oui.
Et il est derrière Grosjean.
Voilà.
C'est vraiment le timing qui fait qu'il est sorti au bon moment et que il a pu défendre sa place. Sinon, il est derrière Grosjean. Et là, c'est plus pareil.
Ah non, c'est plus du tout. Bon, alors c'est vrai, par contre, c'est vrai qu'après, il est quand même revenu à moins.
Je l'ai mis premier parce que, allez, il était 5e ou 4e, je ne sais plus, avant l'arrêt au stand. Donc, enfin, il était premier avec tous les gens, parce qu'il s'est arrêté très tard. Mais puis je le vois arriver, vraiment face à Grosjean. Et là, ça m'a vraiment impressionné. J'ai jamais eu ça. Mais il vient d'où, lui? Parce que il y avait pas énormément d'avance quand même. Et puis, vraiment, il sort et c'est vraiment, il vient d'où? Et c'est pour ça, ça m'a impressionné. Et c'est ce que je retiendrai, franchement, de sa course.
Et voilà, Adeline, tu découvres Kimi, c'est normal. Non, c'est...
Après, je pense que chez lui, il faut quand même aussi reconnaître que les écarts n'ont pas été énormes
ah non,
non plus.
Non.
Et que donc, c'est vrai que on peut avoir l'impression que sa remontée, elle est phénoménale. Moi, je tempérais quand même un tout petit peu. Oui, il gagne des places, mais il s'arrête quelques tours seulement après les autres. Ça pouvait suffire pour remonter. En plus, on n'arrête pas de le dire depuis le début de saison, il a une voiture qui tient très bien avec ses pneus. Voilà, donc j'ai envie de dire.
C'est ce qu'il attendait d'ailleurs avec Hamilton.
Voilà.
Il est revenu plus ou moins une seconde à Hamilton, pas beaucoup plus. Après, on voyait bien que le but c'était, est-ce que les pneus d'Hamilton, pourvu que les pneus d'Hamilton lâchent quoi.
Et c'est vrai que Raikkonen, pour moi, il a fait la course qu'il pouvait faire et qu'il devait faire avec la Lotus.
Ah oui.
Voilà. J'ai pas non plus trouvé que sa course avait été. Sincèrement, j'ai préféré sa course en Allemagne, où d'ailleurs
il était
deuxième,
plus conquérant en Allemagne.
À celle de Hongrie. Voilà. Parce que, voilà, en Allemagne, il était conquérant.
Là, il a plus été
alors que là,
stratégique.
J'ai surtout l'impression que. C'est même pas stratégique. J'ai même pas envie de dire stratégique. C'est qu'il.
Oui, mais c'est dur d'être conquérant sur le Hungaroring, hein, parce que. Il n'y a pas vraiment moyen de dépasser. Donc, non, je trouve franchement. Et puis. C'est surtout l'idée de conquérant quand il était sur ce circuit, parce que quand il était premier, il a été à fond vraiment au moment où il fallait, quand il y avait personne devant lui, ce qui l'a vraiment permis de gagner du temps.
C'est là où finalement
mais
c'est stratégique.
Conquérant,
voilà,
ça se remarque plus en Allemagne, parce que là, il y a moyen de dépasser, et là, il a fait des super dépassements, mais il n'y a pas moyen au Hungaroring.
Oui, mais j'ai pas non plus envie de dire que c'était une course stratégique dans la mesure où c'est pas la stratégie, c'est plus sa voiture qui a dicté ça. Il avait une voiture très performante, on l'a vu, il était un postulant à la pole, il était très bon en essai, il s'est gaufré en Q3, voilà. Il y a ça aussi qu'il faut tenir compte, c'est que c'est un mec qui est rapide. Mais qui s'est retrouvé cinquième à cause d'une mauvaise qualification. Bon, théoriquement, en course, il devait être meilleur que Vettel, que Button qui était devant lui. Donc, il devait être capable quand même d'un moment donné de faire la différence en piste, s'il perdait pas trop de temps. Donc voilà, j'ai pas trop envie de dire que c'était une course stratégique ou compagnie. J'ai envie de dire que voilà, c'est un mec, il avait la bonne voiture, il était sur le bon Grand Prix, il a fait le travail qu'il devait faire. Il était à
100%. C'est assez conforme à ce qu'on connaît de Raikkonen finalement.
Mais totalement.
Voilà, c'est.
Mais je suis très content du coup qu'il soit deuxième, parce que franchement je trouve que ça aurait été je vais pas dire, ça aurait été volé qu'il soit premier sur l'ensemble du week-end.
Faut
voilà,
admettre que c'est un beau podium, parce que même le premier n'a pas volé sa place, loin de là. le podium est magnifique quand on y pense, hein, vraiment
quand on
regarde les performances des trois premiers, ce qu'ils ont fait pendant la course, aucun des trois ne l'a volé. Vraiment, c'était vraiment superbe.
On peut peut-être passer justement au premier, Shinji.
Eh bien oui, vous aurez donc compris. Le premier, c'est Lewis Hamilton, que tu as mis premier, forcément. Hein.
Oui.
Nous, on l'a mis deuxième.
Et il cumule combien de points, Shinji?
Il cumule 2029 points. Je rappelle, Raikkonen avait 2026 points. Ça s'est joué à 3 points Je crois que c'est, ça va être le plus petit écart qu'on ait eu entre un premier et un deuxième. Hein.
Ouais.
Trois petits points.
Mais franchement, pourquoi premier? Ben, pourquoi vous l'avez mis premier, Raikkonen, par rapport à Hamilton?
Bah moi c'est par rapport à sa prestation et puis je t'avouerai j'ai énormément
c'était vraiment comme j'ai dit hein, j'avais hésité à mettre Hamilton mais
moi,
c'est vraiment l'image que je te dis c'est la sortie des stands enfin, il était quatrième avant et le deuxième relais il fonce et vraiment la sortie des stands il vient de nulle part c'est vraiment ça que pour ça que je l'ai mis premier moi il vient de nulle part c'est vraiment l'image que j'ai eue.
Moi, je l'avoue, hein, il y a un cri du cœur. Hein. Très franchement, je l'avoue volontiers. Ouais. Même si, je dois dire, j'ai vraiment énormément hésité. Mais vraiment, j'ai vraiment énormément hésité. J'aurais peut-être dû, finalement. J'aurais eu moins de remords.
Oui, voilà. Il y aurait eu 10 points d'écart.
Voilà, il y aurait eu que 10 points d'écart.
Oui, parce que moi, sur la course d'Hamilton, je trouve que, sincèrement, je ne vois pas, en regardant la course avec le recul, je ne vois pas comment il pouvait la perdre. Il a quand même eu deux mecs qui étaient au taquet derrière lui, qui étaient vraiment
fait,
à fond,
ça, c'est
et
sûr, hein.
Qui étaient super performants. Mais derrière, il a fait la différence en qualif. Il a été monstrueux en qualif. Il a fait la différence. En course, il était moins bien. Ce qui peut peut-être laisser à penser qu'ils étaient peut-être plutôt partis pour un réglage agressif en qualif, et plus neutre en course. Là où peut-être les autres avaient un compromis plus qualif-course identique. Peut-être qu'ils avaient plus misé sur la qualif et que c'était le pari gagnant et que derrière, bah, personne a réussi à le dépasser. Ni Grosjean, qui a mis des efforts, oui. Ni Raikkonen. Il a été brillant dans l'utilisation
du kart. Oui, il a bien résisté. Il a fait, comme tu le dis souvent, il y a eu une belle défense par Hamilton, même si il n'a pas été non plus extrêmement inquiété.
Comme l'a dit Grosjean quand même, quand il se rapprochait, il perdait du grip, puisque quand on est trop près d'un
oui,
adversaire, on a moins d'aéro et on perd du grip. Donc, à mon avis, il y a ça aussi qui a joué. Hein. Déjà
oui,
que ce n'est pas facile à doubler sur ce circuit. Donc, à mon avis, ça a joué beaucoup.
Oui, mais c'est aussi là qu'il faut compter dans la dynamique de la course. Regardez aussi ce qui s'est passé en qualif. La victoire de d'Hamilton a se construit aussi en qualif. Et je pense que oui, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui font que derrière les mecs perdaient en grip et que les pneus des Lotus se sont plus dégradés et que c'est difficile de faire sur le Hungaroring. Mais voilà, le mec a eu la bonne stratégie, qui a eu le bon coup de nez et compagnie, et qui a suggéré parfaitement sa course, c'est Hamilton. Je reviens sur le Kers, la gestion du Kers, elle était formidable. Quand on regarde ce qui était intéressant au Hungaroring, ce qu'on voit assez peu, mais là qu'on voyait bien au Hungaroring, comme la ligne de chronométrage est vraiment au début de la ligne droite. Donc c'est au moment de la ligne de chronométrage que le Kers se réinitialise. Et on voyait bien que quand Kimi Raikkonen arrivait, il vidait sa pile avant la ligne droite, avant la ligne de chronométrage, et il continuait à vider la pile une fois qu'elle s'était rechargée au moment de la ligne droite, juste derrière. Donc c'est-à-dire qu'il utilisait son Kers sur toute la ligne droite. Là où Lewis Hamilton, il l'utilisait juste au début du tour, ce qui fait qu'en fait, enfin, au début de la ligne droite, donc à la fin du tour, ce qui fait qu'il arrêtait d'utiliser une fois qu'il avait passé la ligne de chronométrage, puisqu'il avait fait la différence en accélération au début, donc il s'était mis relativement à l'abri, en sachant que la ligne droite et le DRS n'auraient pas suffi à faire la différence si vraiment il avait la patate nécessaire au début. Et derrière, il l'utilisait pas sur le reste de la ligne droite, il préférait l'utiliser plus dans le circuit vers le virage 4 et compagnie, et surtout le garder pour la fin du tour, la sortie du dernier virage, pour vraiment redonner la patate à sa McLaren. Et je trouve vraiment que là, il a magnifiquement contrôlé la course. Il avait pas la meilleure voiture en course, ça c'est évident, mais derrière, il a réussi à contrôler la course. Il a, pour moi, il a peut-être même, je sais pas trop, mais il a peut-être même gagné sa course. Il avait préparer sa victoire dès les qualifs. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je mets premier, quoi. Il y avait strictement rien à faire. Enfin, les mecs ont essayé, c'est pas faute d'avoir essayé. Il y a eu deux mecs, c'est pas en plus des manches qui étaient derrière. Ils y sont pas arrivés. Donc, je le dis honnêtement, j'aurais trouvé ça injuste que dans le SAV, Hamilton ne soit pas premier.
Très bien. Bien, dans ce cas, on va passer au classement. Et c'est toujours aussi fun, le classement, puisque en première place, nous avons Fernando Alonso avec 173 points. Mais derrière, on a Kimi Raikkonen, 126. Devant Hamilton, 125, Vettel, 119, Weber, 107, Grosjean, 102. C'est fun, hein?
Ça se normalise un peu, hein. Le classement du SAV se calque un peu sur le classement officiel de la F1.
Mais au niveau des équipes, alors là, attention, j'ai refait le compte deux fois. Nous avons Lotus, 228 points, devant Red Bull, 226. Et à égalité, Ferrari et McLaren, 199.
Ah mais dis donc, c'est tendu. Hein.
Dans l'autre classement, eh bien c'est aussi Alonso qui est en tête, 164 points, devant Weber, 124, 40 points d'écart, Vettel, 122, Hamilton, 117, Raikkonen, 116. Là encore, derrière Alonso, c'est super serré. Et chez les constructeurs, Red Bull, 246, McLaren, 193, Lotus, 192, Ferrari, 189. Quelle est bien
cette Ferrari qui a perdu deux places sur ce week-end.
Oui, mais bon... C'est...
Non mais voilà, non mais c'est exactement la
situation. Dans le classement pilote, hein, 6-7-8, donc Rosberg,
ah oui,
Grosjean en 77, 76 et 76 points.
Messieurs, nous allons passer au fait marquant.
Ouais.
Et je vous rappelle, donc, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne?
Il va falloir trouver une règle, si nous dire.
Quoi? On prend plus Alonso?
Ouais, non.
Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne 2012? Vous avez été 89 à voter. Merci à vous. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Un Grand Prix anonyme de Romain Grosjean, 12 votes, 13,48%. Vettel et Red Bull dépassent les limites, 29 votes, 32,58%. Et enfin, en première position, 48 votes, 53,93%. Alonso fait le trou en championnat. Donc c'était qui avait pris un Grand Prix anonyme pour Romain Grosjean?
C'était moi. Alors, le week-end anonyme de Fernando Alonso. Non, Lotus à deux doigts de la victoire.
C'est à toi, Adelin.
Ben, moi, je crois que je vais faire simple. Je veux dire, Hamilton revient pour la course au titre.
Oh, tu t'engages.
Pour une fois qu'il y en a un qui dit Hamilton parce que tout le monde dit « Ouais, Raikkonen est dans la course au titre », c'est bien. Ça change. Merde, vous avez pris le podium.
C'est couillon, hein.
C'est con, hein.
Oh, tu peux utiliser Alonso si tu veux. Ça sera un bon test, tu vois, pour voir si vraiment il y a un effet Alonso ou pas.
Oh non, j'ai Franz Schumacher qui a besoin de lunettes.
Bah, il est vieux, hein, c'est la myopie.
Bah, c'est pour ça. Je mets pas papy parce que ça risque encore d'énerver des gens. Donc, comme fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2012, nous vous proposons Hamilton revient dans la course au titre, Lotus à deux doigts de la victoire, ou bien Schumacher qui a besoin de lunettes. Pour voter, n'oubliez pas, c'est sur l'article du SAV de la F1, sur cette émission, sur le site fan-f1.com. Dino, c'est l'heure du concours!
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Dino, comme toutes les semaines, je vais te poser la question. Avons-nous eu des bonnes réponses et combien de bonnes réponses avons-nous eu?
Alors, nous avons eu des bonnes réponses, oui Shinji.
Ouais, c'est bien.
Et ces bonnes réponses, elles sont de mémoire au nombre de 3. Et je confirme, elles sont au nombre de 3. Mais tu veux peut-être te rappeler de la question,
oui,
qui était... celle que nous posions la semaine dernière. C'était la question suivante, elle nous était posée par Clément. Quel est le point commun entre Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button et Heikki Kovalainen? Et la réponse, messieurs, était...
Alors, ce point qu'on a même évoqué pendant l'émission, Adelin le sais-tu d'ailleurs?
Les quatre pilotes ont remporté leur premier Grand Prix, là, au Hungaroring.
Tout à fait.
Oui. Alors, Damon Hill, c'est en 95... Non, 94... si je me trompe pas, avec Williams. Alonso, c'est en 2003. Jenson Button, en 2006. Et Kovalainen, en 2008.
3. Donc, tu m'as dit Kovalainen, 2008, c'est bon. Button, 2006, 2006, c'est bon.
Alonso, 2003.
C'est bon. Et
Hill. Et 94 pour Hill.
Ah, 93.
93.
Ça va.
Et donc, nous avons eu 3 réponses, donc 3 questions. Et là, Shinji, tu vas être triste.
Pourquoi? Elles sont faciles.
Mais non, tu vas être tout seul.
Ah, d'accord.
Puisque Adelin a participé.
Ah non, je suis un fidèle du concours, moi.
Attention. Donc, Adelin, j'espère que vous m'avez sorti des trucs bien vicelards.
Il y a des trucs que tu vas aimer. Même des questions que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre. Donc, on va commencer avec une première question. Quelle amputation cruelle le célèbre Joseph Michel a-t-il manqué de faire subir au circuit de Spa-Francorchamps? Ensuite, question suivante. Le circuit de Spa-Francorchamps ne porte pas bien son nom. Pour être tout à fait logique, quel devrait être son nom? Et enfin, troisième question. Combien de monoplaces 2012 de l'écurie la plus victorieuse à Spa-Francorchamps pourrait-on aligner en file indienne sur le tracé de Spa pour en faire le tour? T'as voulu des questions dures, c'est dit? Tu les as.
Non, mais c'est bien. Alors, j'ai bien envie de prendre celle sur le nom du circuit.
T'es sûr?
Oui.
Oui. Yes.
Donc, Adela, une réaction, un commentaire sur cette victoire?
Ah bah, ce fut très serré et je suis très content. Après cette dure question, j'ai dû me tramer la tête pour trouver cette question et qui au moins, j'aurais gagné le petit papier de pour mon grand prix à domicile. Je suis super content.
Ouais, c'est vrai, bien. C'est vrai.
Ouais. En même temps, qui mieux qu'un belge pour faire une question compliquée sur un circuit belge?
Tout à fait.
Voilà.
C'est bien, en plus, c'est mon deuxième petit papier.
T'avais gagné quand?
Oh, alors, j'avais gagné, tant que je te dise, j'avais gagné pour le circuit de Valence, avec la longueur du circuit de Valence, mais j'avais pas dit,
ah oui.
C'était
ah oui.
Pas urbain. J'avais pas
avec
dit
le
mot
piège.
Urbain.
Donc, je vous rappelle la question de Adelin, qui est la suivante. Le circuit de Spa-Francorchamps ne porte pas bien son nom. Pour être tout à fait logique, quel devrait être son nom? Pour nous répondre, vous avez, oula, vous avez le temps, vous avez jusqu'au 4 septembre, voilà, après le Grand Prix de Belgique. Donc voilà, vous nous envoyez la bonne réponse sur concours@savf1.fr. Et avec votre réponse, vous nous joignez une question sur l'Italie. Ou sur le Grand Prix de Monza, ou voilà, enfin sur voilà pour
sur
le Grand Prix de Monza,
voilà.
On n'a pas de thème alternatif là.
Non,
voilà.
C'est déjà bien assez large l'Italie.
Ah non, on peut en rajouter un. Hein. On peut rajouter comme thème alternatif l'hymne italien.
La vitesse.
Si vous voulez poser une question sur l'hymne italien, voilà, n'hésitez pas. Donc,
n'oubliez pas, il y a toujours un bonus à ceux qui arrivent à mixer les deux.
Oui, voilà. Donc là, vous avez été fidèles au rendez-vous. On va d'ailleurs remercier les autres participants au concours, à savoir Globen, qui nous posait la question « Quelle amputation cruelle le célèbre Joseph Michel a-t-il manqué de faire subir au circuit de Spa-Francorchamps ?» Et la réponse, c'est que Joseph Michel est le ministre de l'Intérieur belge qui a procédé à la réduction du nombre de communes et ce faisant a conduit la commune de Francorchamps à disparaître, manquant ainsi d'amputer le circuit de la moitié de son nom. Notons, car c'est important, que le nombre de communes est passé à l'occasion de cette réforme de 2359 à 596 seulement.
Et oui, à mon petit village, c'est une commune à part entière, mais il a été rattaché. C'est dommage.
Voilà.
Au passage, j'habite en Bray. Personne ne connaît, je sais.
Oui, la Bray, tu connais?
Oui. Nous, c'est pas grave, on reste avec nos 36 000 communes.
Ah, oui, voilà.
C'est pas long de tourner ici, ça.
Et donc, on va aussi féliciter pour sa question, même s'il n'a pas gagné, Steve, qui était avec nous la semaine dernière, et qui nous posait la question, donc, combien de monoplaces 2012 de l'écurie la plus victorieuse à Spa-Francorchamps pourrait-on aligner en file indienne sur ce même tracé? Alors, l'écurie la plus victorieuse, c'est Ferrari. Donc, il fallait trouver la longueur de la Ferrari F2012, pour ensuite, la multiplier, enfin, diviser le nombre, la distance du circuit de Spa, pour trouver le nombre de voitures qu'on aurait pu mettre les unes derrière les autres, et c'est 1541 F2012.
Je dis bravo à Steve pour cette question particulièrement Vissla.
Mais apparemment, il n'y avait plus Vissla. Donc voilà, rendez-vous dans 5 semaines.
Et donc dans 5 semaines, comme tu l'as dit, ce sera...
La Belgique.
La Belgique.
Et qui de mieux qu'un Belge pour nous dire quoi faire, surtout en Belgique,
oui.
Quand on n'aime pas la Formule 1 et
même
qu'on n'a
si,
pas envie
même
de...
si dans ce cas-là, vous avez quand même un énorme mauvais goût. C'est-à-dire que si déjà vous avez voulu rater le Grand Prix de Hongrie, bon, Amit, il y avait quelques raisons, mais c'est quand même...
Non,
je voulais parler du fait qu'il y avait les jeux et tout ça.
Oui,
mais ça reste du mauvais goût. Mais alors, rater le Grand Prix à Spa, c'est un énorme mauvais goût. Mais heureusement, Adelin est là pour vous aider.
Bon, ben ce sera donc, si je m'abuse, le 2 septembre. On revient tous de vacances, hein. Enfin, où il y en a qui sont déjà revenus, mais en ce qui me concerne, je reviendrai à peine des vacances. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est ranger les bagages. Première chose, ranger donc les bagages. Ensuite, le lendemain, c'est la rentrée pour la plupart des gens, même si je ne rentre pas ce jour-là. On peut donc préparer cette rentrée en faisant, par exemple, faire les derniers achats, acheter les derniers stylos ou de cartouches d'encre, ce genre de trucs. Et après, en revenant à la maison, on les met dans sa trousse, Ou bien, si on n'est pas allé, si on n'est plus à l'école, on prépare les dossiers pour le travail, ce genre de choses. Donc ça en fait trois. Après, bon, je change un peu de thème. On a beau ne pas aimer la Formule 1, mais on peut aimer les jeux vidéo de Formule 1. Donc, on peut jouer à F1 2011 pour pouvoir apprendre aussi à connaître ce circuit, parce que il n'y a pas que la Formule 1 qui roule dessus, hein. Et ce qui permettra aussi de comparer à F1 2012 qui sort 15 jours plus tard, je crois. Ensuite, tant qu'on est sur le PC, on peut plutôt jouer à des mini-jeux sur Internet, comme des sites comme Miniclip ou Nitrom. Après, en restant sur Internet, quand on s'ennuie, ce que je vais faire, c'est je vais sur worldometers.info, et là, ça nous montre toutes sortes de statistiques sur le monde. Donc, la population actuelle, le nombre de naissances aujourd'hui, le nombre de décès, c'est très intéressant aussi, tout ce genre de choses. Ensuite, et j'ai deux choses, je ne sais plus à combien je suis.
Si.
Donc, j'en ai plus à dire qu'une seule. S'il fait beau, ce qui est un petit peu improbable, mais bon, on ne sait jamais en Belgique,
C'est
hein,
de la science-fiction.
eh ben, vous pouvez aller faire de la voile, parce que j'aime faire des, j'ai fait déjà plusieurs sèches de voile et j'adore ça. Donc, si vous n'aimez pas la F1, allez faire de la voile.
Bon, autant vous dire, pour faire la voile, vaut mieux avoir de l'eau à côté de vous. Hein. Si vous
Oui.
essayez de faire la voile dans le Périgord, ça va être un petit peu galère.
Il y a des lacs.
Eh ben, sachez
Oui.
que
La voile dans des lacs, tu dis.
à 10 km de chez moi, il y a un grand village de Péronne, donc
C'est trop fort, Worldometer, il y a plein de chiffres partout.
Ça y est, tu m'as détraqué, Suzy. Tu lui as ouvert tout un
ça
horizon de
bouge, on dirait que ça n'arrête pas de
possibilités.
bouger tout le temps.
Tu te rends compte qu'il y a eu 572 057 décès causés par la malaria cette année?
Oh,
Ah non, mais
on va y avoir le drone maintenant.
Oh, c'est trop beau.
Donc c'est worldometers.info.
C'est en train
Donc
de
faire
devenir
slash
une
fr slash
religion.
pour avoir en français.
Après la religion du livre, la religion du chiffre. C'est horrible. Je vis un enfer. Ça y est, je suis en train de voir toute ma vie défiler devant mes yeux, toute la fin de saison et tout, c'est gâché. Ça y est. Oh là là, on lui a donné des chiffres, mais comment on peut oser?
Mais c'est des chiffres actuels, c'est pas...
Oui, mais ça
Tu sais, toi, t'en rendras qu'au vieux truc.
Oui.
Et donc, on va finir par les pronostics sur la prochaine course.
On n'a pas parlé du nouveau podium. On s'était dit, ah oui, est-ce que c'est un podium qui est pour l'occasion? Mais en fait, bah, ils l'ont adopté, à mon
Voilà.
avis.
Ah bah oui, voilà, on a eu la confirmation en effet. Bah là, on va avoir le podium tout le temps avec ces fameux panneaux, ces fameux drapeaux qui tournent. Pas trop triste?
Bah oui, enfin
Mais
voilà, mais en même
la
temps,
question,
voilà, il
c'est pourquoi l'avoir fait en plein milieu de la saison? Mais c'est beaucoup mieux ces drapeaux qui volaient comme ça. Hein.
mais après voilà, il y avait quand même des trucs sympas, enfin on a vu le nom de Lewis Hamilton, voilà, il a gagné, on a montré son nom, sa signature, c'était assez sympa. Voilà. Donc il y a des trucs que je regrette, les drapeaux, je regrette, mais le reste du podium compense un petit peu la perte du drapeau qui flotte et qui est toujours élégant. Mais, voilà.
Oh oui, ça va, ça reste sympa.
Non, c'est vrai que moi ça fait moderne et on voit la F1 qui suit son temps, on va dire ça comme ça. Donc
Mais c'est vrai que
c'est
ça.
vrai qu'il y a des points positifs, mais ils auraient dû garder les drapeaux, c'est vraiment le truc.
Mais c'est vrai que ça fait bizarre qu'ils le mettent comme ça au beau milieu de la saison. Bon, c'est vrai que c'était Silverstone, c'est un peu particulier comme Grand Prix, mais c'est comme ça au beau milieu, même pas à la moitié, enfin un petit peu avant la moitié. Mais c'est sympa. Donc on va passer au pronostic, messieurs, pour ce Grand Prix de Belgique.
Tu en connais les CD.
Bah oui, on le connaît. C'est son jardin.
Oui, bah oui. Alors, on lui donnera une pelle et un râteau, et puis il ira planter des bégonias.
Voilà, tout à fait. Toi, Dino?
Moi, allez, Schumacher.
Oh.
Oui, je sais, je suis fou.
Et Adelin?
C'est dur à dire, hein, parce que si dans longtemps les voitures elles auront peut-être un petit peu évolué, ben ça c'est la question la plus dure du STAPSA. Je sais pas. Mais les Lotus étaient en forme, mais j'ai envie de voir une Lotus gagner, donc ben, je vais dire Grosjean.
Je rappelle quand même que Kimi a gagné en 2004, 2005, 2007, 2009, et en 2008, il a pas gagné, mais à 3 tours de la fin, il était premier.
Oui.
Voilà. Mais bon, on verra. On arrive à la fin de cette émission? Merci Adelin de nous avoir accompagnés, ça fut un plaisir.
Ben, je vous remercie aussi, c'était un super moment.
Mais c'est horrible, Shinji, il y a plein de chiffres. On est 766 000.
On rappelle que...
Il y a trois personnes qui viennent de mourir, Shinji.
La semaine prochaine, il y a un mag.
Encore deux.
Et que pendant que les gens meurent, vous pouvez nous poser des questions. C'est sur contact@savf1.fr.
Oui, d'ailleurs, si vous êtes candidat pour des grands prix, il y a quelques places qui sont remplies. Voilà, donc vous nous appelez et puis on verra sur place comment faire.
D'ailleurs, pour les questions, je me suis trompé, c'est pas contact, c'est répondeur@savf1.fr.
On vous rappelle que donc il y a une émission à un mag la semaine prochaine et qu'ensuite il y aura donc deux semaines de vacances. On viendra à la semaine du 20. Alors on ne sait pas si ce sera le mercredi comme d'habitude ou un autre jour de la semaine du 20, avec une émission spéciale. Vous pouvez toujours postuler. On a déjà des candidats, mais on fera le choix. Et puis on se retrouvera pour un mag le 28, je crois.
Le mercredi avant, en fait.
Voilà, le 28 ou le 29 août. Et puis après, ben voilà, on reprendra le cycle avec des invités en Belgique, en Italie. Et après, à vous de nous contacter pour voir si vous voulez prendre une place.
Je suis pas là, je suis en vacances hein, pour votre super jeu. Je suis déçu.
C'est pas grave, tu pourras l'écouter.
Oui.
Puis tu verras que t'as échappé à certains trucs.
Si pendant d'autres vacances, je serai là pour participer à d'autres émissions parce que je me suis vraiment bien amusé.
On vous rappelle aussi qu'on est sur podcastfrance.fr. C'est à peu près tout.
Oui.
Et comme d'habitude, déjà, bonnes vacances, en tout cas pour les émissions d'après-course. On se retrouve dans 5 semaines. Sinon,
merci Adelin.
Merci Adelin. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le mag. Et comme d'habitude, ciao.
Merci à vous.
On vous laisse sur ces quelques mots de poésie, s'il n'a pas oublié de les faire.
Ah, le meilleur moment, la citation.
Ah, puis là, cette semaine, je vous ai gâté. Puisque, en l'honneur du Hungaroring et de ce magnifique circuit, je me suis dit, allez, je vais leur faire un proverbe français. Donc jusque-là, c'est logique.
Ouais.
Mais je vais faire en hongrois.
Ah oui, c'est... T'aurais fait le contraire, à la limite, mais...
Donc, voilà. Non, je vais pas vous dire un proverbe français. Ça va rester un petit secret avec moi-même. Je m'excuse d'avance auprès de la Réunion, de la Hongrie, de n'importe qui, parce que je pense que ça va avoir des effets dévastateurs. Et donc, mon proverbe pour ce Grand Prix de Hongrie serait le suivant. Yabafut, elkel, ranitsa, azido.